Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui résume et analyse l'actualité de la WWE et cette semaine tout particulièrement l'actualité du Royal Rumble, le premier pay-per-view de l'année 2019. On était en direct de Phoenix au Chase Field Stadium, 48 000 personnes en feu dans un stade absolument dingue et pour m'accompagner pour revoir ce qui s'est passé. Déjà je suis Giscal mais vous m'avez reconnu hein, et pour m'accompagner Yerem, comment ça va Yerem?
Salut, bah écoute ça va très très bien effectivement, là c'était une grosse soirée et impatient d'en parler avec vous.
Et puis bah on va faire un trio hein, parce que gros pay-per-view oblige et nous accueillons également Bad Karma, comment ça va Bad Karma?
Salut Yerem, salut Giscal, salut tout le monde, bah écoute j'ai enfin pu dormir un peu donc je vais bien.
Ah. C'est vrai que tu l'as regardé en direct, Bad Karma.
Et ouais, je l'ai regardé en direct. Et après, comme ça a fini plus tard que ce que je pensais, je me suis dit, bon, bah, je vais pas dormir, je me coucherai plus tôt ce soir, c'est tout. Puis je me suis couché à l'heure à peu près normale. Et donc là, j'ai fait une grosse nuit. Mais là, je suis chaud, je suis prêt, motivé.
On va recharger les batteries.
Ouais, nous, on avait opté pour une autre option avec Irem. On l'a regardé hier soir. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous verrez quand est-ce que vous écouterez la review. Mais lundi soir. Tranquillement ouais. Avec quelques bouteilles de vin et l'apéro.
Ouais, c'est pas mal aussi. Hein.
C'était pas mal aussi. D'autres conditions.
C'est un peu moins. J'ai pas regardé tout seul. Hein, j'avais un pote à moi, Artegor. On s'était fait une petite bouffe. On a raconté des conneries. D'ailleurs, il m'a demandé de le citer un petit peu si ça dérange pas dans le podcast.
Ah bah c'est fait là, ça y est.
Ah bah ça y est, tu l'as cité, c'est fait. C'est
bon. Non mais il a eu une ou deux réflexions que je voulais reprendre.
Ah d'accord, donc tu pourras le citer après alors.
S'il y a eu quelques bons mots, autant les partager. Ouais.
Non mais voilà, c'est le pay-per-view qui se prête hein, à le regarder à plusieurs. Vous pourrez nous dire dans les commentaires dans quelles conditions vous avez regardé ce Rumble. En tout cas, on espère qu'elles étaient au moins aussi bonnes que celles des 48 193 personnes qui était packed dans le Chase Field à ce stade de baseball qui nous a donné du coup un set assez inédit hein, cette arène un peu tout en cône là autour du ring et puis cette entrée sans titantron qui vient des profondeurs du stade qui nous donnait une ambiance assez old school que j'ai plutôt bien aimé. Moi je trouvais que le décor était vraiment inédit et très sympa. Je sais pas si vous avez apprécié autant que moi ce beau stade.
Moi, ce qui me concerne, j'ai bien aimé l'endroit. Ça a changé complètement. J'aime bien le changement de temps en temps. Ah ouais. Et c'est vrai que on y avait pas le titantron. Ça pouvait dérouter, mais c'était pas trop gênant non plus. Par contre, du coup, la rampe d'accès pour venir a été super longue.
Ouais, puis un peu biscornu,
un peu
à l'ancienne. Comme
il y avait un vieux virage.
Ouais. Il y avait un virage compliqué. On verra peut-être pour Titus notamment. Hein, On lui met des bâtons dans les roues.
D'ailleurs, il me semble que dans le pré-show, il y a un caméraman qui s'est vautré parce qu'il était en train de reculer, puis il a raté le virage.
En effet, on a
un métier à risque.
D'ailleurs, ça nous fait une transition toute trouvée, puisque on va vous parler du pré-show brièvement. On va pas rentrer dans les détails. Hein. Il y avait 5 heures d'émission, alors on va passer au plat de résistance assez vite. Mais en tout cas, sachez que le pré-show était le théâtre de 3 rencontres. 3 rencontres, dont... un petit match impromptu puisque Bobby Roode et Chad Gable, les champions par équipe de Raw, affrontaient Rezar et Scott Dawson, donc une moitié de chaque équipe des AOP et du Revival, accompagné de Drake Maverick. Et on nous raconte au commentaire que ce match avait été négocié par Drake Maverick lui-même auprès de Vince pour que si jamais cette équipe de Brick and Brock remportait le match, il décrochait un title shot futur pour les deux équipes. Un concept écoute assez fun, mais qui au final n'aura pas servi à grand chose, puisque Bobby Roode et Chad Gable l'emportent sans coup férir en 7 minutes à peu près. Donc quelque chose d'assez expéditif. On aura également eu dans ce pré-show le match pour le titre US entre Shinsuke Nakamura et Rusev. Et c'est sur un gros quiproquo qui coûte cher à Rusev et qui coûtera très cher à Lana aussi, que Rusev s'empale sur sa femme. Qui se blesse, la distraction est suffisante pour un Kinshasa dévastateur dans la nuque du japonais qui reprend son titre après un match. Que t'es pas si mal, mais je vous laisserai en parler après. Et enfin, le pré-show s'est conclu sur le Fatal 4-Way des Cruiserweight. Buddy Murphy a conservé son titre sur un Murphy's Law sur Hideo Itami, si je dis pas de bêtises. c'était le match était Fatal 4-Way avec Akira Tozawa et Kalisto, un match 100% international. Un match qui a fait le café en pré-show, qui était pas mal. Écoute, je sais pas si vous avez du coup quelques petits commentaires en vrac sur ce pré-show, si vous l'avez regardé.
Bah vas-y, IRM commence.
Ouais, si, j'ai regardé les trois matchs, j'ai zappé le tout ce qui est panel, etc. Donc ça, j'ai pas trop maté ce qui s'était passé, parce que c'est quand même 2 heures de panel de pré-show, c'était un peu long. Ouais, les trois matchs, tu l'as dit. En fait, on est monté crescendo tout simplement dans le. Dans le l'échauffement avant le lancement, donc bon voilà, je pense que ça marche vraiment quand tu es dans la salle, c'est pas mal quoi, tu te fais chauffer, tu chauffes au fur et à mesure. Le premier match,
ils sont là pour ça. Hein, ouais.
Ouais, c'est ça. Le premier match, c'est un petit peu dommage. Je suis presque un peu déçu de la défaite. Je trouvais que l'idée était cool de se dire les mecs peuvent gagner un title shot. Presque déçu que finalement ça n'est pas abouti. Mais voilà, après on avait 5 heures derrière qui nous attendaient, donc. On avait besoin d'être chauffé, mais on avait surtout besoin, envie de regarder le main show, quoi.
Ouais. Bah voilà, exactement comme dit IRM. Le title shot, à quoi ça sert de leur donner un title shot si c'est pour rien faire de leur donner cette stipulation si c'est pour rien faire derrière. Le match en plus était. Moi j'ai pas du tout aimé. Honnêtement, je me suis un peu fait chier. le Rousseff Nakamura, on se doutait qu'il allait se passer un truc avec Lana, mais bon. C'est un peu dommage d'avoir fini comme ça, un peu à la va-vite, j'ai trouvé. Et enfin, le Cruiserweight, là, par contre, ça, ce match-là, je l'attendais vraiment, et je me suis amusé. Notamment, il y a un spot qui les implique tous les quatre. T'as Buddy Murphy qui est sur les épaules de Tozawa, Itami qui tient les cordes, Kalisto qui saute en travers des cordes, qui fait un Hurricane Rana, qui envoie tout le monde dans la barricade et tout. C'était assez sympa, j'ai vraiment bien aimé, ça montrait bien ce que fait 205. Voilà.
Ah si, juste un truc, enfin Kinshasa dans la nuque pour le qui obtient le 3 quoi, la victoire. Donc ça, ouais. Oui. Ça c'est mon top du kick-off.
Ah, tu sais à quel point ça compte pour moi aussi, ça c'était très important en effet. Ouais, ça, ce Kinshasa qui enfin couche, hein, parce que ça a l'air tellement plus impressionnant quand même qu'un Kinshasa dans la figure, dans la nuque. Donc ça fait plaisir. Ouais. Alors que je m'excuse auprès des auditeurs si vous entendez un petit bruit de fond. Il y a plein de choses qui se passent chez moi, donc j'espère que c'est pas trop gênant. On va continuer avec la carte principale, du coup.
Ouais. C'est parti.
Et on va commencer ce pay-per-view, ce marathon de pay-per-view avec un match qui, je ne sais pas si ça vous a surpris, mais un choix d'opener assez spécial puisque c'était le titre féminin de SmackDown qui ouvrait la danse avec Asuka, la championne, qui défendait contre Becky Lynch. Un match que certains auraient pu voir peut-être pour garder un petit peu le suspense du Rumble après le Rumble, avant pour justement teaser, est-ce qu'il va y avoir une entrée, enfin on sait pas. En tout cas, le choix de la carte était assez sympa, j'ai trouvé. Écoute, les filles ont fait le boulot. Alors évidemment, Becky Lynch rentre sous une pop absolument stratosphérique. On sent que le stade est déjà, dès le coup d'envoi, acquis à sa cause. Le match, sensiblement, va être, sans, on va pas rentrer dans tous les détails des spots, comme toujours, hein, mais un match très compétitif où Asuka aurait fait bien plus que tenir la chandelle, contrairement un petit peu au build qui avait mené vers ce match. De l'action assez costaud, que ce soit hors ou entre les cordes, beaucoup de rappels de contre, Asuka qui notamment a utilisé le disarmer au même titre que Becky Lynch qui a utilisé l'Asuka Lock plusieurs fois. Il y a eu notamment une séquence de contre où elles se sont enchaînées leur prise de soumission à toi moi, assez sympa. On a eu un moment une petite frayeur aussi avec une German suplex depuis le tablier du ring, un DDT à l'extérieur qui a failli faire le compte pour un décompte à l'extérieur. Et finalement, c'est une séquence finale, encore une fois, de à toi à moi de soumission. Becky Lynch qui tente le disarmer, mais Asuka qui, une fois de plus, arrive à trouver le contre pour tenter un petit paquet, un tombé. Ça ne fera que deux. Asuka qui place son Asuka Lock, et alors là qui nous fait une variante assez dévastatrice, puisque en fait elle C'est assez compliqué à vous expliquer en audio si vous n'avez pas vu le match, mais en fait, elle fait une sorte... Elle, si vous connaissez la prise de soumission que Daniel Bryan utilise parfois, le Cattle Mutilation, c'est un petit peu ça. En fait, elle va passer au-dessus de Becky Lynch et faire un peu un ponté, ce qui fait qu'elle transforme son Askalock en un étranglement terrible qui empêche la championne de s'échapper et qui tape. Et là, c'est la première surprise déjà du pay-per-view, puisque Becky Lynch, soumise par Asuka en 17 minutes environ, dans un match finalement aura peut-être effacé tous les défauts de ce build, à savoir que Asuka était peut-être la championne qui rentrait, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec le règne le plus fragile de tous les champions de ce pay-per-view. Et puis bah, là, elle décroche une victoire flamboyante et très compétitive sur une Becky Lynch tout feu tout flamme qui, on la voyait pas, on la voyait pas forcément taper ce dimanche.
Effectivement, grosse surprise comme tu l'as dit côté elle tape. Alors ils l'ont plutôt bien amené, hein, parce que c'est vrai que tous ces contres là de prise de soumission étaient assez dingues. Becky Lynch, moi j'ai beaucoup aimé effectivement que ce soit l'opener. Tu dis c'était beaucoup de surprises, hein, mais effectivement une carte intelligente, et voilà Becky Lynch qui a ouvert le pay-per-view comme elle ouvre les weekly en fait. Et c'est elle la patronne, même Royal Rumble pour le premier match. Et ouais, c'est vrai que tu l'as dit, Asuka, ils ont vraiment réussi les deux, le chemin des deux allait se séparer ce soir, et il fallait réussir, il fallait faire deux choses. Une, effectivement, comme tu l'as dit, renforcer ce début de reign d'Asuka qui effectivement avait été très opportuniste et qui avait pas forcément fait preuve de qui avait pas dû, comment dire, enfin même dans les dans le gomme chaud, elle attaquait par derrière, elle était énervée, etc. On savait pas trop où ce qu'ils allaient avec elle, donc c'était plutôt, c'est vraiment une grosse ouais, victoire pour elle.
Le focus était vraiment sur Becky quoi.
Et c'est ça, comme tu le dis, de toute façon Becky Lynch était voilà, c'est le point focal de tout, et on le verra, hein, de quasiment de tout le pay-per-view en fait, tout tourne autour d'elle. Et et du coup c'est vrai que cet abandon n'est... Enfin, moi, j'ai pas été genre... tu sais, souvent, on est là, mais c'est pas possible, Babyface qui abandonne, c'est juste... ça va à l'encontre de la logique, mais elle est tellement loin, et surtout, tu voyais derrière, elle avait déjà son esprit était déjà ailleurs, quoi. Elle avait déjà un plan pour la suite, quoi. Donc, c'était un très bon premier chapitre, là, pour ce pay-per-view. Donc, je suis très content qu'effectivement, Asuka quitte la scène, enfin, cette grosse rivalité... pour aller comme ça porter en tant que championne solide à SmackDown. Donc, ouais, ils ont vraiment bien réussi. Là, le contrat est rempli de mon côté.
Bah moi, forcément, en tant que fan absolu de Becky Lynch, j'étais un petit peu déçu qu'elle perde, mais quelque part, je le sentais venir aussi. Parce que c'était le moyen de clore l'histoire avec cette rivalité. Bien, pour pouvoir passer à autre chose, donc on va voir la suite. C'est vrai que dans le match, plusieurs fois, je me suis dit, ouais, les deux peuvent quand même gagner, il y a quand même moyen de réussir un truc intéressant. Le match était super pour moi, il n'y a pas de problème. Pas grand-chose à ajouter par rapport à IRM, hein. Globalement, je pense comme lui.
Bah oui, en effet, en tout cas, bah voilà, ça a fait le boulot, et puis bah ça a lancé ce show sur la meilleure des routes, hein. Je pense que là, le public, après, malgré la défaite, on sentait que voilà, le match avait été d'un tel niveau, et puis le public n'est pas dupe, il savait qu'il y aurait peut-être.
Ouais, c'est ça, tu dis c'est pas fini, quoi.
C'est pas fini, bah voilà, ça, je trouve que ça vraiment c'était ça. C'était très habilement écrit, et on verra que c'est quelque chose. C'est un trait commun dans l'ensemble du pay-per-view. Et on va continuer la carte avec SmackDown qui ouvrait le show, parce que de toute façon, hein, quand il faut chauffer la foule, on envoie le show bleu, hein, on envoie la qualité dès le début. Du coup, Tag Team Championship, SmackDown The Bar contre The Best Tag Team in the World, Le Miz et Shane McMahon, qui avaient sorti pour l'occasion de magnifiques chemises de baseball. Pareillé, quoi de mieux d'ailleurs dans un stade de baseball, hein, donc c'était fort à propos. The Bar qui a eu un choix cosmétique sans doute un peu plus douteux, avec une tenue violette qui n'était pas du meilleur effet,
Je t'interromps deux secondes, Giscal. Oui. J'ai vu une vidéo qui expliquait certains choix vestimentaires. Alors, et en fait, fallait voir dans le dos de leur veste, ils avaient le gantelet de l'infinité de Thanos. Le violet, c'était pour Thanos, en fait.
Oh, ok. Bah écoutez, voilà, c'est une référence que je n'ai pas vue, puisque je ne sais d'ailleurs pas qui est Thanos.
Tu vas te faire des ennemis dans le...
Eh ben écoute, Giscal, toute une éducation à refaire.
J'imagine que c'est encore un truc chelou, Marvel, je sais pas quoi, là.
Ah, bah ça, toi, tu sais,
c'est
pas
le grand méchant des films Marvel actuellement.
D'accord. Bon, bah voilà, je connais, je le regarde pas, donc je sais pas. bon, étant donné que notre audimat vient de baisser de 80%, je vais enchaîner. Et donc, le match, un match qui s'est peut-être un poil éternisé, presque un quart d'heure, mais qui était, ma foi, plutôt bien construit et à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre des deux équipes. Donc, un début assez sympa où finalement le Miz et McMahon rivalisent un petit peu de surprise, de vitesse, de contre pour un petit peu semer le doute dans la tête de Cesaro et Sheamus. Donc on voit au début voilà quelques petites actions et la morgue des challengers là qui se disent haha ouais on est pas là pour rigoler, vous nous avez sous-estimé pendant deux semaines. Donc voilà, c'est assez sympa, mais au final ce qui se passe c'est que la puissance et l'expérience tag team finissent par reprendre le dessus. Sheamus et Cesaro qui arrivent assez rapidement à isoler Shane McMahon et ça part notamment d'ailleurs parce que Shane McMahon tente assez tôt un saut de la troisième corde vers la table des commentateurs sur Cesaro. Donc assez tôt, la folie de Shane McMahon en fait lui coûte assez cher le contre il est contré, il s'écrase sur les barricades et alors là du coup le Miz se retrouve pendant tout un moment à un contre deux. Il subit un petit peu la loi des champions, les coups de butoir de Sheamus dans les cordes là quand il tape 10 fois sur le torse de son adversaire. On a bien évidemment tout le jeu de tag team des méchants. Donc il y a une longue période de heel hit jusqu'à c'est généralement entrecoupé de petites tentatives de tomber, de petits paquets, mais généralement assez vite mis à mal par les champions qui continuent de dominer. On finit par trouver un hot tag quand même sur Shane McMahon. Et Shane McMahon qui là tente de placer Sheamus dans le coast to coast. Il est contré par Cesaro, mais finalement pour très peu de temps. Et alors là, McMahon colle une patate à Cesaro et il le place par-dessus Sheamus dans le coin du ring. Donc là, on pense que ça va être le double coast to coast. Ça n'arrivera finalement pas. C'est contré par un Cesaro qui se relève plus vite. Et alors là, Cesaro qui entame peut-être l'un des plus longs Cesaro swing de mémoire récente, incroyable. Je ne sais pas combien de fois il a tourné. Sous vos applaudissements, si vous avez compté, donnez-nous le compte des Cesaro swing, absolument exceptionnel.
Ouais.
Et pourtant, ça ne suffit pas à coucher le terrible Shane McMahon, plein de volonté, qui arrive à placer un triangle choke. Donc c'est un peu le Hell's Gate de l'Undertaker pour vous situer et qui d'ailleurs est au bord de faire perdre connaissance à Cesaro. On se dit c'est pas possible, il va pas soumettre comme ça Cesaro. Sheamus arrive et contre, et donc là on rentre dans la séquence un petit peu finale avec de très très beaux near fall, un double team notamment avec un white noise sur le Miz qui n'aura qu'un compte de 2 et Cesaro qui tente de retenir Shane McMahon pour placer un broad kick dévastateur et définitif, rappel de ce qui s'était passé à SmackDown la semaine passée. Et là le Miz arrive, sauve son copain, Cesaro bouffe le broad kick, Miz chop Sheamus, skull crushing finally, et ça permet pendant ce temps là à McMahon de monter sur la troisième corde, et là s'il vous plaît, WrestleMania moment des familles, shooting star press du fils du patron à 49 balais pour le compte de 3 bien évidemment, devant une foule qui est absolument en fusion à ce moment là dans un match qui finalement aura été entièrement construit et même les semaines précédentes, voilà, pour ce moment et cette prise de titre qui était me concernant des plus jouissives.
Eh ben là, j'ai l'impression que j'y étais là. J'ai revécu ce moment incroyable. C'était assez fou, comme tu l'as dit, tout était construit et c'est sûrement ça que beaucoup, certains pourront reprocher à ce match évidemment, c'est que grosso modo, on a mis tout le monde à niveau pour que Shane O'Mac brille 2000 feux ce soir, parce que effectivement l'histoire, elle ne concerne ni Sheamus ni Cesaro, elle concerne deux fils qui cherchent l'approbation de leur papa. Ils l'ont obtenu, en tout cas le Miz, puisqu'il allait fêter sa victoire dans les bras de son père, qui a approuvé, comme ça il était ringside. Voilà, le papa de Miz avait fait le déplacement. On peut imaginer qu'effectivement Vince était aussi très fier de son fiston dans la gorilla position. Donc voilà, moi effectivement, j'accepte le fait que Sheamus et Cesaro ont clairement, avaient clairement le pied sur le frein, vu tout ce qu'ils nous proposent depuis leur run d'équipe. Enfin, c'était juste pas crédible le fait de se faire rouler dessus comme ça par Out Wesley, comme par Shane McMahon, comme à chaque fois il le fait. On se souvient qu'il l'avait fait avec Kurt Angle et on trouvait ça improbable. Donc, ouais, il faut dire, ok, bon, bah, faut accepter ça. Si t'acceptes pas, ça marchera pas. Tout ça pour qu'effectivement, pouvoir dire cette phrase quand même incroyable, Shooting Star Press, du fils du patron pour la gagne. Rien que de pouvoir dire ça, je trouve ça assez fun. Donc, ouais, moi, c'était vraiment du fun à l'état pur, quoi, ce match. Donc, moi, j'y ai trouvé mon compte.
Ouais, exactement. Tout pareil. Du fun. Bien rigolé. Alors les chemises étaient assorties pour Shane et Miz. Petite différence, c'est que Miz avait sur sa chemise Miz and Mac plutôt que Miz au Mac, pour montrer qu'en fait il était avec Shane, il n'était pas son égal non plus exactement. Mais à la fin, ce Shooting Star Press purée, je m'en remettrai pas, je pense. Ça scotchait le public, ça m'a scotché moi. La victoire, on l'avait tous senti venir, mais on pensait plus à une disqualification du côté de l'équipe et même de mon camarade Artegor qui regardait avec moi. Non, là, c'est on a été scotché. La petite séquence finale où ils vont faire câlin au père du Miz qui était ringside, c'était sympa aussi. Moi, j'ai bien aimé.
Ouais, non, c'était très cool. Et puis d'ailleurs c'est quelque chose qu'on essaiera de faire un petit peu à l'avenir, de tant que faire se peut, mais de donner un petit peu les avis du reste de l'équipe. Mais sachez que Raphaël aussi a eu une observation qui était pas mal sur ce match. Il disait que on sentait que les quatre, en fait, s'étaient éclatés à faire ce combat. Et je trouve que c'est vrai que ça transpirait un petit peu, que ce soit pendant le swing, pendant les contres, les spots et tout. Il y avait un dynamisme qui était presque surprenant finalement pour parce que bon, The Bar, on connaît, hein, ils sont exceptionnels en tag team, mais on savait pas forcément ce qu'allait donner Shane et le Miz en équipe. C'était un petit peu leur premier gros test et quel test. Et c'est vrai que voilà, il y avait cette impression que les quatre étaient vraiment au diapason. Ça a donné, moi, en tout cas, un match qui m'a vraiment. Je me doutais que ça allait être cool, mais je pensais pas que ce serait aussi sympa à regarder. C'était vraiment un de mes coups de cœur du pay-per-view. Et manifestement à Raphaël aussi. Et ouais, vous l'avez dit, ouais, cette petite interaction à la fin avec le père du Miz, c'était sympa. On continue et on n'en est toujours pas au premier Rumble, puisque nous avions un autre match pour le titre, encore un titre féminin, le titre de Raw, Sasha Banks contre Ronda Rousey, la feud qui était partie sur le thème du respect et qui s'est, comme c'est souvent le cas entre deux faces, en tout cas déclaré, c'est lentement envenimé et c'est d'ailleurs l'impression que ça donne dès le début du match, hein, puisque les deux ne se respectent plus du tout, ne sont absolument plus copines. Donc on a une Sasha Banks boss gangsta au possible, là, très 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 sûre d'elle, très très maniérée dans sa façon d'arriver au ring et de se foutre devant le nez de la championne. Ronda Rousey, pareil aussi, n'est plus là pour rigoler, hein. Après 2-3 tapes dans les mains du public, elle grimpe et elle brandit sa ceinture devant. Donc on sent que là, il y a de l'eau dans le gaz. Et puis d'ailleurs, le match commence un petit peu à toute allure. Et je trouve n'aura jamais vraiment ralenti. C'était un match qui était très très intense, sur un rythme même plus élevé, plus agressif que le Asuka Becky Lynch. Donc on a eu, notamment au début, moi j'ai beaucoup aimé ce spot, Ronda Rousey qui a placé les Three Amigos, hein, ces trois souplesses arrière, quand on ne lâche pas l'adversaire. Donc ça, c'est évidemment un taunt en rapport avec Banks, qui idolâtre absolument Eddie Guerrero. Donc ça, c'était assez sympa. Ronda Rossi, qui elle, à défaut d'idolâtrer Eddie Guerrero, elle est plutôt son idole, c'est Roddy Piper. Roddy Piper. Et d'ailleurs, elle va tenter une première fois dans le match le Piper Spit, la prise de finition du Hall of Famer, mais ce sera contré par Sasha Banks dans un armbar super fluide, très sympa. Et c'est d'ailleurs un petit peu le thème du match, hein, ces transitions de prise de soumission qui ont été mais absolument incroyables. Donc là, on sent quand même qu'on était sur une opposition de style complètement différente, mais on était dans le jardin de Ronda Rossi. Elle a pu vraiment exprimer tout ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir les projections de judo, les enchaînements au sol, les prises de soumission, les contres. Donc là, vous me donnez votre avis après, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez organique dans ce match au niveau des contres de prise de soumission. On avait vraiment l'impression de voir deux lutteuses essayer de gagner la position, la dominance sur l'autre et d'essayer de placer des prises un petit peu dès que c'était possible. D'ailleurs, on n'était pas sur des... elles n'étaient pas tout le temps en train d'essayer de placer leur armbar ou leur bank statement. Il y avait des changements, il y avait des triangles, il y avait des étranglements, il y avait des crossface, il y avait un petit peu de tout. Donc ça, c'était très très fun. Et sensiblement, c'est un petit peu l'histoire du match. C'est qui est-ce qui va arriver à trouver la solution au sol. Et au final, la décision viendra d'un gros gros travail de Ronda Rossi sur le bras de Sasha Banks. De même, Sasha Banks, gros travail sur le bras de Ronda Rossi, à tel point qu'elles ne seront plus capables de porter leur soumission. Et en fait, Ronda Rossi réussira en fait à repositionner Sasha Banks sur ses épaules et à placer un Piper Spit, qu'elle transitionne sur un tombé, et donc elle gagnera sur tombé ce match après un petit peu moins d'un quart d'heure. Donc la championne garde son bien comme prévu, mais ce qui n'était peut-être pas forcément prévu derrière, c'était ce qui s'est passé juste après le match. Alors voilà, Ronda Rossi qui a essayé de relever Sasha Banks un petit peu, on s'est bien battu, mais je t'avais choisi parce que je te respectais, tu m'as pas déçu, c'est un petit peu ce qu'elle essayait de raconter. Sasha Banks, la déception est un petit peu trop forte, alors elle sort, elle se barre du ring, un peu toute penaude, et elle reviendra juste après se confronter, encore une fois, face à face à la championne, très proche, et à lui faire un petit 4 de la main, 4, on pense forcément, aux 4 titres de championne, d'Euro, c'est-à-dire que Sasha Banks, elle en a peut-être pas fini avec Ronda Rossi, en tout cas elle lui dit moi je suis 4 fois championne et on se recroisera. Donc voilà, c'est un petit enchaînement sympa pour finir ce match. À vous la parole maintenant.
Badkara.
Ça a été un match qui m'a déçu fondamentalement.
La sanction.
Je trouvais que Ronda s'était bien améliorée ces derniers temps en termes d'in-ring et compagnie. Et là, j'ai eu l'impression qu'elle avait régressé. Elle a tenté des choses nouvelles, mais du coup, elle les maîtrisait pas forcément. Et ça donnait un côté un peu brouillon, un peu raté, un peu entraînement, en fait. Et du coup, si c'est un entraînement, ça n'a pas sa place en pay-per-view. Donc voilà, donc c'était un peu la déception de ce côté-là pour moi. Le taunt... à la fin, ça fait plusieurs années qu'on sait qu'ils veulent faire un match entre, d'un côté, Banks, Bailey, Charlotte et Becky, et de l'autre, Ronda, Shayna Baszler, Marina Shafir, Jessamyn Duke. C'est pas un scoop, ça. Ils sont en train de le builder tout doucement. Mais ouais, déception en ce qui me concerne.
Et qu'est-ce que t'as pensé de Sasha Banks?
Il y a plusieurs moments, j'ai trouvé qu'elle était pas, elle retombait pas bien. Elle était pas en forme pour moi. Il y avait un truc qui allait pas. Je pense que c'est parce qu'elles ont tenté des choses différentes, mais que du coup ça n'allait pas en ce qui me concerne. Les deux étaient pas au top.
T'as raison. Alors déjà, moi, je sais pas si. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par ce signe des 4, mais effectivement, je pense que c'est plus le symbole des Four Horsewomen qu'elle a placé que plutôt que ces 4 titres, ou alors c'est les deux. Je pense que là, le rendez-vous est pris, on verra.
4 titres. Ouais.
Tu crois?
Ouais. Ça peut être les deux.
Comme je t'ai dit, vu la durée moyenne des règnes de Sasha Banks, il n'y a pas de quoi trop se la péter. durée moyenne d'un règne de Sasha Banks à la WWE, 20 jours. Hein, donc, Mais bon, peu importe, effectivement. En tout cas, elle donne rendez-vous. Elle donne rendez-vous. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça, enfin, en fait, ça y est, on y est, quoi. On y est. Enfin, clairement, on a la... c'est un peu l'heure de vérité pour Ronda Rousey depuis son match face à Charlotte, puisque jusqu'à son match face à Charlotte, qui devait être un match contre Becky, finalement, c'était un peu ça l'entraînement. On lui a donné. Alors, elle a eu, elle a sorti des bonnes prestations, mais il y avait toujours ce côté. Elle vient d'arriver, il y a le côté nouveauté, il y a ce côté effectivement. Elle apporte un moveset totalement inédit que tu as très bien décrit, Giscale, et qui du coup peut apporter parfois un côté brouillon parce que, mine de rien, ils ont mis. On avait là, donc, ouais, heure de vérité maintenant. On affronte un petit peu le top game des catcheuses à WWE. En commençant par Charlotte, donc c'était pas l'exercice le plus facile. Maintenant Sasha Banks, probablement. Alors je sais pas si un jour elle croisera le fer avec Bayley, mais pourquoi pas d'ici là. Je trouverais que ce serait une storyline assez sympa avant de rencontrer les quatre, enfin voilà, de faire le 4v4, au moins faire voilà des faire le tour quoi, des quatre Horsewomen. Et là, ouais, ça y est, maintenant on est Ronda Rousey versus le top du top. Et c'est vrai qu'on ça peut mettre aussi éclairer un petit peu. Enfin, c'est deux styles qui s'opposent. Et c'est vrai qu'en termes de catch pur, enfin, vraiment l'art du catch tel qu'on le connaît, effectivement, Sasha Banks, elle est vraiment au top. C'est là que tu dis, mais ça fait 1 an, 2 ans qu'on la voyait plus, quoi, Sasha Banks, c'est terrible. Elle en a quand même encore. Enfin, tout ce qu'elle a à montrer dans un match, c'est assez incroyable. Et, mais c'était aussi l'heure de vérité justement pour elle, pour Sasha Banks. Justement, c'était assez inattendu, hein. Enfin, je ne sais pas si on ça, parmi nous, on aurait pu imaginer Sasha Banks contre Ronda aussi, comme ça, 2 mois avant WrestleMania. Mais effectivement, les deux, du coup, elles avaient un peu à cœur à faire beaucoup, peut-être à faire trop. Ronda aussi, comme tu l'as dit, c'était très organique. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, Giscale, c'était très organique. Est-ce
Ouais,
que
moi c'est
les
ce que j'ai, c'est peut-être ce qui a gêné d'ailleurs Camille, hein,
Ouais.
Bad Karma, pardon. Et c'est moi peut-être ce qui m'a plu, c'est finalement ce côté brouillon que tu mentionnes, moi que je vois plus comme un truc un peu legit, quoi, organique, tu vois, c'est finalement, bah, c'était de la vraie baston au sol, quoi, c'était de la vraie technique, et c'est moins chorégraphié que ce qu'on peut voir habituellement, ça m'a plu justement, mais bon.
Ouais. Alors c'est très organique, c'est très naturel, j'imagine très bien Giscale se battre dans un bar, j'imagine bien te voir te battre comme ça.
Ah bah, c'est-à-dire
Moi
que
quand je
oui,
me bats, c'est comme ça, c'est très
quand tu te bats pour
organique.
de vrai, tu vas pas faire des jolis bras à la volée et des body drops, des trucs comme ça. Il y avait un côté, ouais, il y avait un côté vraiment ring plus présent, ouais, vraie bataille de lutte que j'ai bien aimé moi perso et que je trouve qui était bien maîtrisée. Mais bon après,
Ouais. Pour moi, c'était vraiment
c'est un style,
50-50.
hein. Ouais.
En fait, j'ai vu les deux choses. J'ai vu ce que tu as décrit, toi, Giscale, le côté très organique. Et toujours Ronda Rousey qui, même si voilà, je suis pas son premier fan, mais elle arrive quand même à m'hypnotiser. Et puis, comme le dit Bad Karma, vraiment ce côté un peu brouillon, un peu. Voilà, ouais, un peu brouillon. C'est pas aussi. Comment dire? Ouais, enfin, tu te dis, un jour, peut-être, on arrivera vraiment à avoir un match de haut niveau moins brouillon, effectivement, de ce côté-là qu'on voyait. Mais on est content de retrouver Sasha Banks à haut niveau, ça,
Ouais,
c'est sûr.
oui, c'est Sasha Banks qui sort quand
Toutes
même
ses manières, son gimmick et tout.
forte de ce match, hein, et remise en avant.
Encore un bon coup, hein, du coup, parce qu'on a quand même deux top face qui perdent. Et à qui ça profite en fait. Ça, toi,
Oui.
c'est.
Non, mais voilà, c'est-à-dire que je pense que sur les deux matchs qu'on vient de revoir, il y avait Asuka qui avait besoin de reprendre un peu de lustre et dans son règne, et puis une Sasha Banks qui avait besoin de revenir un petit peu sur le devant de l'affiche et de montrer qu'elle était une contender sérieuse. Je pense que les objectifs, en tout cas de ce point de vue-là, ont été remplis dimanche à Phoenix.
Ouais, ça c'est sûr.
Eh ben écoutez, on va continuer avec le premier gros morceau de la soirée, le Rumble féminin. C'est parti. Alors, je vais pas vous assommer, évidemment, d'un play-by-play, d'un match qui aura duré quoi ?
Trop longtemps.
Trop longtemps. plus d'une heure et quart. Il était absolument monstrueux, ce Rumble, bien plus long que celui des hommes. Grosso modo, ce qui s'est passé, il y a eu un petit peu quatre parties, en tout cas, vous me direz après ce que vous en avez pensé. Bon, il y a eu un début qui était pas forcément super flamboyant. La number one, la première entrée, alors ça c'était sympa, elle a quand même eu le droit à une promo au micro dans le ring, c'était Lacey Evans. Ouais. Lacey Evans, la lady de la WWE, toujours free agent, hein, qui est venue en costume de marin, très 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 séduisante, très sympa, voilà, qui est venue nous faire une promo disant qu'elle allait nettoyer la division. Alors on se demandait qui allait être son premier adversaire, et là c'est Natalia sous les vivas qui arrive. Le début du match un petit peu compliqué, parce que c'est vrai que on avait un petit peu le fond du roster. Alors on a eu Mandy Rose, on a eu Liv Morgan, on a eu Mickie James. On a eu Amber Moon dans une moindre mesure, mais bon, on avait Billy Kay, on avait Peyton Ross. Et puis, le match s'est un petit peu emballé sur le premier éclair, la première petite lueur avec Nikki Cross qui a fait son entrée après à peu près un quart d'heure de match à peu près. Et donc là, bon, elle a eu une réaction absolument dingue. Elle est arrivée complètement en furie. C'est d'ailleurs, elle a tamponné Billy Kay au passage. C'était assez drôle. Bon, voilà, le public a mordu à pleines dents dans sa gimmick. C'était assez fun. Et puis après on rentre un petit peu sur ce deuxième tiers, on va dire, où un tiers qui aurait été animé par pas mal de montées NXT, donc on pense à Kairi Sane, on pense à une chinoise qui m'était totalement inconnue, Xia Li, qui est rentrée un peu sous les criquets. Je pense pas que c'était très très concluant. Et Candice LeRae qui était là dans un cosplay de Kelly Kelly. On a eu la Ninja Warrior Casey Catanzaro, on a eu Yoshirai, et donc grosso modo ce deuxième tiers c'était un petit peu un petit peu de mise en avant NXT, beaucoup de bordel avec du Zelina Vega sous le ring poursuivi par Hornswoggle, avec du Maria Kanellis, Maria Kanellis qui était là pour tordre le cou des rumeurs, qui a fait un show plus que douteux avec Alicia Fox au milieu du ring. Bon, un deuxième tiers un peu compliqué, et puis finalement, après, on va dire un troisième tiers sans doute un peu plus solide, notamment avec l'arrivée de la montée qui aura sans doute fait le plus gros effet dans ce Royal Rumble, c'est Rhea Ripley, qui a vraiment tiré son épingle du jeu et qui a imposé sa stature et sa puissance dans toute cette fin de Rumble, avec notamment d'ailleurs trois éliminations au compteur, qui est le deuxième meilleur total derrière Charlotte Flair, ce qui est quand même à souligner.
Combien elle a fait Charlotte ?
Charlotte en a fait 4. Elles sont plusieurs, on en a fait 3. Il y a Ruby Riott, il y a Bayley, il y a Nia Jax qui en ont fait 3 aussi. Donc c'est quand même pas mal pour Rhea Ripley. Et puis à la fin du Rumble, on envoie un petit peu la cavalerie. On a Alexa Bliss, on a Bayley, on a Nia Jax, on a évidemment Carmella en numéro 30. Et nous avions eu un petit peu plus tôt Lana en numéro 28. Alors Lana, si vous vous souvenez bien, elle était blessée à cause du pré-show. Elle s'était complètement tordue la cheville. Et le truc, c'est que manifestement, les docteurs ont cru bon de la laisser sortir et de faire son entrée, mais sauf que la pauvre, elle n'était pas capable de mettre un pied devant l'autre, donc c'était assez pathétique comme scène. Mais du coup, elle avait à peine fait 2 mètres que le match a continué, elle était incapable de rentrer. Et après le numéro 30, après Carmella, que se passe-t-il ? Murmure dans le public, on sent qu'il se passe quelque chose, et là on voit Becky Lynch, les caméras qui se braquent sur Becky Lynch, The Man, qui s'avance. Et qui, grosso modo, qui pointe du doigt un petit peu Lana, elle fait regarder, elle peut pas y aller. Moi, je peux y aller, je suis chaude, machin. Donc, on avait étrangement Fit Finlay qui était là, en train de s'occuper de Lana. Et alors là, du coup, collusion irlandaise, complot honteux, puisque il se glisse sans doute des petits mots en celtique ancien, je ne sais pas, mais Fit Finlay qui décide de dire, ok, écoute, vas-y, Becky Lynch, tu peux y aller. Les vivas de la foule, Becky Lynch qui se rue sur le ring, et puis on entame la séquence finale qui verra au final, bon là j'accélère un petit peu, un top 3, un dernier carré, alors je sais plus le dernier carré, mais en tout cas le top 3 c'était Nia Jax, Charlotte Flair et Becky Lynch.
C'était Bayley, je crois.
Bayley était dans le dernier carré, peut-être. Oui, ouais, c'est possible. Charlotte Flair qui finit, enfin en tout cas Nia Jax qui finit par être éliminée. Et alors là, par Nia Jax.
Céline Scheffler, enfin ensemble, oui. Elles parviennent à éliminer Nia Jax. Hein.
Oui, c'est ça, exactement. C'est pas trop du goût de Nia Jax qui tabasse un petit peu Becky Lynch pour la diminuer. Alors là, du coup, la tension monte. On a une Charlotte en mode animal dans le ring, prédatrice prête à bondir, qui voit sa rivale de toujours affaiblie, diminuée et complètement battue hors du ring. Et elle n'attend qu'une chose, là, telle en effet un requin là dans son aquarium, là dans son que sa proie remonte dans le ring. Et puis c'est le combat final. C'est un petit peu le dernier boss pour les deux. C'est ça qui est assez drôle. Dans une séquence super intense par-dessus la troisième corde sur le tablier du ring, c'est finalement Becky Lynch qui aura le dernier mot et qui met KO sa rivale Charlotte Flair pour une ultime fois et remporter ce Royal Rumble dans lequel elle n'aurait jamais dû participer. C'est la folie, c'est la liesse totale dans le public et c'est une victoire qui ne peut que nous faire plaisir à tous, j'imagine.
Acte 2, là, enfin, c'est all-in, comme on dit, sur Becky Lynch. Ouais, ça fait plaisir, WWE a tellement... on n'y est pas encore, on attend l'acte 3 ou l'acte 4, je ne sais pas. Mais WWE a tellement... nous a tellement... ces dernières années, elle n'a jamais vraiment osé aller à fond sur quelque chose qui fonctionne, qui est porté par la foule, à part Daniel Bryan, donc ça remonte à quand même 3-4 ans. Donc ça commence à faire longtemps. Là, on a eu quand même une sacrée histoire qui nous a été racontée. Alors, pour revenir sur le... J'ai pas énormément kiffé ce Rumble des filles, comme tu l'as détaillé. C'était beaucoup trop long. Il y a vraiment eu deux temps majeurs, quoi. Enfin, jusqu'à ce qu'arrive Becky Lynch, jusqu'à ce que voilà, on sente que quelque chose allait se passer. Il y avait des coups, il y avait des séquences sympas, mais il y a quand même eu beaucoup de... C'était trop long, il y a eu des choses que clairement on aurait pu couper, enfin tous les passages avec Alicia Fox, toutes ces choses-là, c'était clairement de trop. On a bien rigolé, enfin toi, le délire avec Zelina Vega et Hans Vogel qui apparaît sous le ring, enfin voilà, potache, mais ça faisait marrer. Voilà, on sait bien, il y a eu des moments comme ça, enfin, où... On s'amusait.
Des fulgurances.
Petites fulgurances. Ou l'inverse. Oui. Mais qu'est-ce que c'était long, surtout au début. Enfin, le quart d'heure des blondes, là, c'était. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc, elles ont rempli leur boulot, mais une fois de plus, il y avait une grosse histoire qui arrivait à la fin, qui était incroyable. Hein. Ce final là, et surtout avec Charlotte qui était là, ouais, comme un requin là, qui sentait le goût du sang là, où tu te dis, Becky Lynch, finalement, est-ce qu'elle a raison de me grimper, est-ce que finalement elle devrait pas rentrer chez elle là, parce que elle va à l'abattoir là, et puis finalement elle y va et l'incroyable se produit, donc, si tu regardes ça avec le prisme de l'histoire de Becky Lynch, c'est super et c'est ce qu'il faut retenir, parce qu'une fois de plus, hein, tout a été construit autour de Becky Lynch. Maintenant, pour tout le reste, moi je retiendrai, comme tu l'as dit, la prestation de Rhea Ripley, qui est vraiment une de mes chouchous là, depuis un bout de temps. Pour tout le reste, c'était oubliable, un petit peu déjà oublié. Quoi. Tu vois, c'est Bad Karma, je ne sais pas si ça restera dans tes grands souvenirs, ce Rumble. Mais...
Écoute, moi j'ai aimé ce Rumble. Donc, moi j'ai passé un bon moment en regardant ce Rumble. Franchement, je suis assez content qu'ils aient sorti des petites nouvelles d'NXT, voire même dans encore plus bas qu'NXT, puisqu'il y en a certaines qui sont qu'on voit jamais, même à la télé. Cassie Catanzaro, par exemple, ou Shiali, franchement, je les avais pas vues en dehors du Mae Young classique. Donc je suis content qu'ils aient décidé de sortir des jeunes, plutôt que de rappeler des anciennes à la retraite pour avoir du star power.
Ah ouais, moi c'est ça qui m'a fait chier. Ouais.
C'est pour ça que je disais qu'on allait avoir un sujet à débat. puisque pour moi, ça montre qu'ils ont, se sentent suffisamment confiants dans leur division féminine actuelle à tous les niveaux pour se permettre de sortir des filles inconnues et qui du coup se représentent plutôt l'avenir. Alors que des filles qu'on sait qu'elles sont à la retraite, tu sais qu'elles gagneront pas. Et les nouvelles, tu dis ouais, sur un malentendu, ça pourrait fonctionner, pourquoi pas. Mais donc sinon, ouais, il y a quand même eu des longueurs, effectivement, des passages un peu chiants. Moi, j'ai bien aimé Alicia Fox qui pète un câble devant Maria qui fait n'importe quoi. Ça m'a fait rigoler, j'ai adoré.
En fait, tout dépend de ce que tu bois, de ce que tu fumes au moment où ça se passe, quoi.
Oui, peut-être. Ouais,
on avait rien pris de...
Pour une fois, c'est bien.
D'illicite ou d'alcoolisé. On était... on a juste rigolé comme deux cons en regardant ça. Mon pote Artegor, il a complètement flashé sur Cassie Catanzaro. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il fait 50 cm de plus qu'elle.
Oui, bah, faire gaffe parce qu'elle a l'air d'avoir 14 ans quand même. Donc,
ouais, c'est ça. C'est... Mais voilà, il était en mode écolière japonaise dès qu'il y avait un gros plan sur elle. Ah, elle est trop mimi, elle est trop choupie et tout. C'était assez marrant.
Je peux en commander une. Mais cette séquence où elle remonte, où elle sort, elle se fait pas éliminer, puis elle remonte le poteau, la force de ses abdos. Ouais. Ça, c'était assez impressionnant quand même. Hein.
Ouais. Ouais. Donc voilà, donc moi dans le Rumble, j'ai bien aimé. Alors la victoire finale de Becky Lynch, moi c'était la cerise sur le gâteau.
Il en était heureux de se tromper là.
Ah purée, j'ai jamais été aussi heureux de perdre 2 points sur un concours de pronos. Voilà, puisque le Rumble c'était 2 points pour trouver les gagnants.
Non, apparemment non. Enfin, j'ai mis un correctif. Il y a eu une petite erreur d'ailleurs. Ceux qui nous écoutent, Axel, le grand Manitou du module, n'avait mis qu'un point sur les Rumble, donc vous n'aurez qu'un point malheureusement. C'est même encore mieux pour toi. Tu t'es trompé, tu perds moins de points par rapport aux autres.
Je perds qu'un point, mais j'ai jamais été aussi content de perdre ce point. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Puis la séquence finale où Becky blessée. Qui remonte à 9,5, enfin pas 9,5 justement, il n'y avait pas de décompte, mais l'arbitre qui s'apprête à lever le bras de Charlotte et qui continue quand même à vendre un peu la blessure, même si à la fin elle le faisait plus vraiment. Non, c'était bien. Pour moi, c'était un bon Rumble.
Ouais, moi c'est vrai que. Mais bon, de toute façon, vous l'avez senti pendant la description. Mais moi, je pense que
pas assez de MILF pour Jessica. Ça manquait de MILF.
Vraiment, vraiment pas un Rumble que j'ai apprécié du tout. Je pense que c'était pire que l'année dernière. En fait, j'ai beaucoup de soucis. Le Star Power, voilà. Bon, pour moi, appeler les jeunes, c'est pas un match où tu fais ça. C'est un match, c'est une fois dans l'année, t'es là pour popper, pour avoir des feel good. Je pense que là, je trouve que ça manquait d'une ou deux légendes. Il y a des gens qu'on aurait pu avoir envie de voir. J'ai bien plus préféré à ce niveau-là l'année dernière. Et puis, il y avait un problème de production aussi. C'est pas une stipulation qu'elle maîtrise encore très bien. Il y avait des éliminations qui avaient lieu pendant les décomptes. Pendant les entrées des catcheurs qui étaient à peine filmées, tu sentais qu'il y avait des grosses erreurs de timing, surtout sur la première moitié du match. Donc c'était chiant à suivre. Et puis en fait voilà, il y avait pas ce sentiment où tu te disais, t'avais le décompte du public et t'étais pas le cul au bord de ta chaise à te dire oh, putain c'est qui la prochaine, parce que quand tu t'étais bouffé du Liv Morgan, du Mickey James, du Billy Kay, du Peyton Ross, des inconnus, la chinoise, on sait pas qui c'était. Candice Larrey, franchement, on s'en fout. Canton Zaron, on s'en fout. Tout. En fait, le problème, c'était que t'avais le. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Hein. Tu voyais un petit peu des limites aussi du roster féminin en termes de star power. Je trouve que, en fait, quand tu sors les 4 protagonistes, alors Becky Lynch a fini par rentrer dans le mix, mais quand tu sortais Becky Lynch, Asuka, Sasha Banks et Ronda Rousey, tu te rends compte que, en fait, pour meubler après 30, pour meubler 30, t'es obligé d'aller chercher des petites ninjas ou je sais pas quoi là. Moi ça m'a pas fait kiffer. Et puis je trouve que c'est ce que tu disais quand le Rumble était construit autour de la victoire de Becky Lynch. En fait c'est juste ça. C'est en fait on a attendu 50 minutes pour qu'il se passe un truc finalement. Donc moi je les ai un peu subis ces 50 minutes et j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Mais je sais que beaucoup ont apprécié ce match. Ce qui me perturbe toujours sur ces matchs féminins, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de bienveillance un peu bizarre, ce que j'ai mis sur le forum, une sorte de bienveillance chelou pour les matchs féminins où, où quand c'est bien, quand c'est correct, bah du coup tout de suite c'est bravo bravo. Non, voilà, si ça avait été un Rumble masculin comme ça, j'aurais trouvé ça nul.
Ouais, bah c'est vrai qu'on a tendance un peu, enfin on peut avoir c'est un on très générique hein, parce que on peut aussi on même à catch-up, on n'hésite pas à dire quand on n'aime pas, même quoi, c'est les filles, comme il n'y a pas forcément besoin de bienveillance, mais c'est vrai qu'on j'imagine que notre ressenti en tout cas général est assez pondéré par par des années de voilà de d'ère des divas,
oui, de médiocrité aussi,
voilà, on se contentait de médiocrité, si ce n'est même pire, on pouvait creuser, on creusait.
c'est vrai.
Donc là, c'est vrai que là, tout d'un coup, il y a une sorte parfois de bienveillance, mais après, voilà, là, effectivement, si toi, il te faut du star power.
Ouais, moi, c'est ça qui m'a manqué. Hein. Après, voilà, je vous donne, moi aussi, j'utilise un peu générique. Hein. Je me mets dans la peau de peut-être d'un spectateur plus lambda qui regarde le Rumble. Et franchement, je pense qu'il y a des moments du Rumble où tu se demandais qui était dans le ring, quoi. C'était un peu, jusqu'au dernier tiers, c'était un peu compliqué, moi, je trouve. Mais c'est
et Naomi là qui a eu beaucoup de mal peut-être à l'image de la production du match lui-même quand elle a fait son sauvetage là, à la Kofi Kingston où elle s'est retrouvée à devoir faire l'équilibriste sur la rambarde là, elle était pas rassurée, donc je pense que ça montre aussi un peu, il y a toujours un peu de fébrilité
après je pense qu'elle se met une pression de ouf hein. Ça reste nouveau hein, comme match pour les filles bon peut-être, je suis peut-être un peu sévère sans doute, mais bon
la vérité est entre les deux.
Je vais mettre l'avis également de mon pote Artegor qui est, en une phrase résume son opinion du match. Elles ont toutes fait mieux que Ronda aussi. voilà ce qu'il dit.
Bon alors je suis décidément pas d'accord avec Artegor, mais c'est... bon, en tout cas, c'était un sacré morceau. Quelques petites stats en vrac, je vous ai mentionné un Charlotte Flair record d'élimination avec 4. Suivi par un petit peloton de 3, on en a parlé, hein, Bayley, Ruby Riott, Nia Jax, Rhea Ripley. Au niveau de l'Iron Woman, eh ben, de manière assez surprenante, c'est Natalia qui est rentrée en numéro 2, qui a duré 56 minutes.
Elle a été sortie vachement tard. Hein,
elle a été sortie très très tard, elle est sortie en 23e. Général du ring, bon, qui n'aura pas fait grand-chose, mais qui aura quand même éliminé 2 personnes. Et en fait, bah, elle était suivie de très près, et j'ai trouvé que c'était dommage que ce soit pas elle, par Ember Moon, qui avait quand même fait plutôt un bon Rumble, 52 minutes, mais qui, elle, n'aura éliminé personne. Donc c'est un Rumble un peu en demi-teinte, mais j'ai quand même eu le sentiment qu'elle était assez présente. Et Charlotte complète le podium avec 50 minutes dans le ring, rentrée en 13e, éliminée en avant-dernière, évidemment, enfin en dernière du coup, avec 4 éliminations. Et après, derrière ça, personne n'aura dépassé la demi-heure. Donc, c'était vraiment les 3 qui auront trusté le temps de présence.
Et qui est-ce qui s'est fait, qui est éliminé le plus rapidement?
C'est Liv Morgan, qui a duré 8 secondes.
D'accord.
Puis, elle est rentrée, puis elle a été éliminée directement par Natalia, d'ailleurs, justement, sous la pop du public.
Moi aussi, j'ai popé à ce moment-là. Je voulais pas voir Liv Morgan dans le ring.
Allez, on va enchaîner parce que mine de rien il nous en reste encore pas mal et on va continuer avec le match pour le titre WWE entre Daniel Bryan, le champion de la planète, et AJ Styles, le propriétaire de la maison SmackDown, qui était là pour réclamer son dû, sa ceinture. Bon, honnêtement, je vais pas passer trop de temps sur le descriptif de ce match que j'ai trouvé moins bon que le dernier match qu'ils ont fait. Alors évidemment, il y a eu quelques spots assez sympas, mais c'était du classique. Les moments forts, on va dire, c'est sans doute le 450 splash de AJ, toujours super impressionnant, de la troisième corde contrée par les genoux de Daniel Bryan. On a eu quelques jolis, évidemment, hein, ils se connaissent par cœur, des transitions entre le Calf Crusher et le Bell Lock, hein, pas le Yes Lock, attention. C'est terminé tout ça. On a eu peut-être une séquence assez longue de tentatives de tomber, de backslide juste avant le final du match, de crucifix spin, des phenomenal forearm contrées. Et puis finalement cette séquence un petit peu longue aboutit à un pelé kick de AJ Styles qui à ce moment-là du match prend un avantage qui commence à sentir bon. Et alors là, encore une fois, murmure dans l'arène, la caméra qui se tourne vers l'entrée. Et alors là, c'est la stupeur. C'est le what the fuck. Eric Rowan, en chemise de bûcheron, t-shirt noir, barbe plus soyeuse et plus magnifique que jamais, qui arrive, alors là, qui avance tranquillement vers le ring, devant la stupeur vraiment du public et des téléspectateurs. À ce moment-là, on était un peu scotché, on se regardait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc bon, le match, du coup, suit un petit peu son cours, hein, Eric Rowan qui s'installe tranquillement, Styles qui s'était un petit peu arrêté de catcher a permis à Bryan de revenir dans le match, ça brawl, et à ce moment-là, Bryan qui couche l'arbitre sans faire exprès, ou pas, on ne sait pas avec lui, hein, maintenant sur une tentative d'Enzugiri, contrée par AJ Styles, l'arbitre est au sol, AJ Styles qui place son Styles Clash, mais il n'y a plus d'arbitre, et c'est à ce moment-là que Eric Rowan, comme on le pressentait de par son style vestimentaire, nous ne sommes pas dupes, arrive dans le ring, attrape AJ Styles par la tête, hein, vraiment, il lui chope la tête à pleine main, et il lui place une sorte de choke slam un peu modifié, là, un skull slam, je ne sais pas comment il appellera ça, qui manifestement est absolument dévastateur, puisque AJ Styles, qui ne s'était pas pris un seul finisher de tout le match, est couché pour à peu près 10 secondes, ce qui permet à l'arbitre de se réveiller et à Bryan de faire le compte de 3. Et donc une victoire sur assist pour Daniel Bryan qui s'en va bras dessous avec son nouveau compagnon devant toujours une certaine stupeur, une certaine torpeur du public qui ne s'est pas vraiment remis de ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé?
Non. Non. Déjà parce que quand j'ai regardé en direct, c'est un moment où on a complètement décroché, on n'a pas réussi à rentrer dans le match avec mon pote. Et donc, on a levé la tête quand on a vu Eric Rowan qui arrivait. On s'est dit, qu'est-ce qu'il fout là? Et puis, à la fin, on a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux des explications maintenant. Voilà, j'en suis à ce stade-là.
Ouais. C'est l'expectative.
Exactement.
Ouais, non, c'était chelou. Alors après, avec sa chemise en flanelle, là, le gars, il s'était un peu cramé sur son alignement, mais c'était dur, hein. Enfin, moi j'ai vraiment
25 minutes, hein.
Ah, moi j'ai pas du tout aimé ce match. C'est dans ma tête, c'était encore un match d'AJ Styles dans une rivalité d'AJ Styles. Et en fait, AJ Styles n'arrive pas. Enfin, en tout cas, c'est depuis un an, n'arrive pas à me transporter.
C'est trop sage. Hein.
C'est trop sage, c'est propre, c'est dans le ring, c'est très bon.
Il
n'y a rien à dire, qualité technique. Mais si tu veux mettre 10 sur 10, mec, mets 10 sur 10, je t'en empêcherai pas. C'est pas moi qui viendrai te faire chier parce que t'as mis 10 sur 10 pour la prestation technique qu'ils ont faite. Mais le mec, il laisse ses adversaires tout seul porter l'histoire, quoi. Et heureusement qu'on a Daniel Bryan, heureusement qu'on a des Samoa Joe. Parce que sinon, on n'aurait pas des AJ Styles. Le mec serait tout seul, là, à faire ses 450. Enfin, c'est super. Enfin, qu'on se trompe pas. Hein. C'est magnifique, ce qu'il fait. Enfin, le mec est d'une précision chirurgicale dans ce qu'il fait. Il a un certain star power auprès de la foule, parce qu'il représente effectivement les gens. Enfin, je sais pas, il y a ce côté, effectivement, SmackDown et AJ Styles. Enfin, le mec, il fait partie vraiment du paysage maintenant. De la WWE, mais je me suis ennuyé. Alors je sais pas, peut-être qu'aussi après s'être tapé le Rumble des filles, c'était un petit peu un coup dur, je pense aussi, toi, c'était pas facile,
peut-être un peu dur, ouais, d'envoyer ça juste derrière, sans doute,
ouais, pour un gros match 25 minutes, c'est pas vraiment le...
Ça aurait peut-être pu inverser avec le match dont on va parler après, c'est vrai que c'est pas faux.
Ouais, je pense effectivement, histoire de chauffer un peu plus la salle, je sais pas. Et puis, je sais pas, c'est jamais vraiment des main events, finalement, des vrais main events, les matchs de championnat. Alors, ça, c'est aussi la faute de la WWE, toi, mais je suis pas emporté. Toi, tu dis le résultat va être prévisible, ça va être un beau match, je vais pas être surpris, quoi. Et effectivement, j'ai pas été surpris du tout. Donc ouais, je suis vraiment... En fait, j'arrive à un stade où je suis même plus vraiment déçu, c'est juste... Ouais, voilà, c'est un match d'AJ Styles. Je suis pressé qu'on le voit plus dans le main event d'AJ Styles, en fait. Je suis pressé que des mecs comme Daniel Bryan aillent un petit peu se chauffer avec d'autres gars pour voir un petit peu s'il y a une alchimie qui se crée, quoi. Donc, ouais, je serais déçu. Alors, après, l'histoire de. Quant à l'histoire de... d'Eric Rohan, c'était un gros what the fuck, le mec. C'est lui qui était blessé en plus, donc c'est lui qui revient des deux. Donc, plus de Bludgeon Brothers. Bon, ben, je suis un peu triste parce que je l'ai trouvé très bien. Le Bludgeon Brothers, mais ok, pourquoi pas. Mais je suis quand même intrigué, effectivement, comme Bad Karma. Je suis un peu impatient de voir ce que ce gros Golgoth va faire. Est-ce qu'on va aller vers un truc. Ça marche bien, les alchimies. Il y a toujours une bonne alchimie entre Daniel Bryan et les mecs qui font plus de 2m10. Donc, je suis impatient de voir ça. Je suis là pour l'appel, je suis bien curieux. Donc voilà, pour moi, c'est probablement un de mes flops de la soirée.
Ouais, c'est bon. Moi, j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est vrai que ouais, il était compliqué ce match. Mais voilà, il y avait en fait, c'est paradoxalement, c'est un peu moi ce cliffhanger là qui m'a sauvé le truc parce que c'était du what the fuck, on était du bon côté du what the fuck en fait. J'étais mine de rien, le seul moment où j'étais scotché à mon écran. C'était les 5 dernières minutes avec cette arrivée d'Eric Rowan et qui arrivait comme un fantôme là et qui tournait son ombre là qui tournait autour des deux compétiteurs autour du ring. Bah en fait, c'est vrai que ça a rendu ces 5 minutes assez captivantes parce que tu te demandais ce qu'allait se passer. Mais les 20 premières minutes c'était trop classique. En effet, je trouve que je suis assez d'accord quand tu dis qu'il y a peut-être une certaine lassitude autour de AJ Styles dans le main event, peut-être qu'il est temps qu'il redescende ou qu'il aille voir un petit peu ailleurs et qu'il se réinvente, je sais pas, mais ouais, je partage un petit peu cet avis-là, malgré le fait que ce soit un catcheur formidable, hein, il n'y avait pas de débat là-dessus. On n'est pas en train de dire qu'on en a marre de voir AJ Styles. Hein.
Non, mais c'est pas qu'on en a marre, c'est juste que c'est un match, on l'a déjà vu. Il n'y a pas eu de nouveauté par rapport à ce qu'ils ont pu nous faire avant.
Ouais. C'est un peu décevant, ça. Ouais.
Voilà.
Surtout que ça ne correspond pas du tout à l'histoire qu'on nous a racontée en Weekly. Le mec était censé avoir montré une part de lui beaucoup plus sombre. Tout l'angle avec Vince McMahon n'a servi absolument à rien.
Non, c'est vrai qu'on est passé à côté de pas mal de choses dans ce match.
D'un point de vue storytelling, moi je trouve pas. C'est pas une erreur aussi majeure que. Le match entre Rollins et Ambrose.
Ouais, c'est ce dont j'allais parler, exactement. Ouais.
Mais ça se tient là, quoi. Ça se tient quand même là. C'est genre, ouais. il passe à côté. Le match ne correspond pas à l'histoire qu'on nous raconte.
Ouais, je suis très d'accord avec ça. Ouais, j'allais faire cette comparaison dans une moindre mesure, en effet, parce que le Rollins-Ambrose, c'était un raté incroyable. Mais c'est vrai que là, voilà, on avait une sorte de dream match pour clore une rivalité qui était quand même assez chaude et qui était voulue de tous. Et au final, on a un produit tiédasse quoi, qui nous est servi, et c'est pas normal quoi.
Et puis aussi, le fait qu'il y a l'intervention de Rowan à la fin fait que Styles peut réclamer un nouveau rematch ou un truc comme ça en disant j'ai été floué, on en peut plus de cette rivalité, voilà, on le dit tous. Ils sont très bons dans le ring, mais moi j'ai décroché parce que j'en peux plus de les voir en fait. Styles, il est dans la main event picture de SmackDown depuis un an et demi. Bah, faut peut-être qu'il fasse une pause. Voilà. Ouais.
Ah, ils vont changer. Je sens qu'on va avoir quelques petits matchs avec, Rey Mysterio, Mustafa Ali, Daniel Bryan. Je suis sûr, il va avoir de quoi travailler là jusqu'à WrestleMania. Donc, on espère qu'en effet, tout ça va changer assez rapidement. Mais bon, c'est raté. Mais par contre, il y en a qui se sont pas loupés. Enfin, en tout cas, me concernant, puisqu'on va attaquer le coup de cœur de la soirée. Pour moi, c'est le match pour le titre universel entre Brock Lesnar et Finn Balor, celui à qui on ne donnait pas une chance. Souvenez-vous, hein, il y a eu une construction express de Finn Balor dans le main event de Raw en 2 semaines, double sur 2 semaines, double promo avec. Le big boss Vince McMahon avec des échanges au micro avec Vince McMahon. Il a battu John Cena clean au milieu du ring dans un Fatal 4-Way pour remporter son match. Il a battu ensuite Braun Strowman par disqualification alors qu'il l'avait quasiment pour le compte de 3. On ne saura jamais après son coup de grâce lors du Go Home Show. Finn Balor arrive avec un momentum de fou, mais il arrive surtout avec l'étiquette du David contre Brock Lesnar, le Goliath. Et on ne donne pas cher de sa peau. Ça a été martelé dans tous les packages vidéo. On a même eu le droit à un graphique à la MMA, un peu hein, Tales of the Tape, là, comme ils font, où ils donnent un petit peu le poids, la taille, le reach, la longe, le nombre de jours de règne de champion. C'était assez drôle. Un pour Finn Balor et je sais pas combien de centaines là pour.
J'aime bien, c'est que c'était précisé en cumulé en plus, toi.
Ouais, c'est ça, en cumulé.
Donc c'était assez drôle. Donc voilà, ça a été martelé. Il n'a aucune chance. Même à SmackDown, je sais pas si vous aviez tilté là-dessus, mais c'était assez drôle. Il y avait une promo à SmackDown où R-Truth et Carmella sont dans les coulisses. On lui demande à R-Truth si tu gagnes le Rumble, qui tu vas affronter. Et t'es là en train de dire, ouais, je sais pas, Daniel Bryan ou AJ Styles, je sais pas. Et il dit, bah ouais, la ceinture universelle, ça t'intéresse pas. Oh non, pas Brock Lesnar. Tu vois, même pas de mention de Finn Balor. Il n'existe pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aurait existé dans ce match, dans un match qui a duré 8 minutes, un sprint, clairement, construit comme on s'y attendait, mais construit de manière très efficace. La montagne est clairement trop grande sur les premières minutes, hein, elle est trop haute. Finn Balor qui est martyrisé par Brock Lesnar. Brock Lesnar qui joue sur sa puissance. Et tout bascule à un moment où l'action est hors du ring. Et Finn Balor qui arrive à projeter Brock Lesnar sur le coin de la table des commentateurs. Et en fait, Brock Lesnar se prend le coin de la table dans l'estomac. Et donc là, évidemment, on rappelle les blessures, d'ailleurs, qui avaient écarté Brock Lesnar de sa carrière en MMA pendant très longtemps. C'est la diverticulis. Alors, je ne sais pas si en français c'est ça, mais il a des problèmes aux intestins qui l'ont empêché de combattre. Et donc, du coup, on joue là-dessus, ce qui est plutôt bien joué d'ailleurs, puisqu'on sait que le coup de grâce de Finn Balor, sa prise de finition, c'est finalement, il s'appuie tout son poids sur l'abdomen de ses adversaires. Donc là, le storytelling switch complètement. Finn Balor reprend l'avantage et fait un gros travail sur l'abdomen de Brock Lesnar. On se dit que l'exploit est peut-être possible, la bête est à terre, et il y a d'ailleurs justement un coup de grâce sur Brock Lesnar qui nous donne un near fall assez sublime, puisque j'ai pas souvenir d'un coup de grâce qui ait pas fait le compte de 3 depuis que cette prise existe. Mais ça ne suffira pas. Brock Lesnar tente de reprendre l'avantage. Il tente de reprendre l'avantage. J'ai foiré le finish, hein, parce que après le coup de grâce, dans la foulée, Brock Lesnar qui se relève et qui place sa Kimura. Et alors là, avec des yeux totalement exorbités, là, il s'enroule autour de Finn Balor et tu sens toute la pression qui peut appliquer sur la Kimura. Finn Balor n'a pas d'autre solution que de taper. Donc voilà, il s'incline, le champion conserve son titre. Et d'ailleurs, après le match, on le voit, hein, il souffle, il a eu chaud, Brock Lesnar. Et puis, finalement, c'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux à ce match, c'est qu'on savait qu'il allait gagner, mais il a eu très très chaud et ça s'est ressenti et c'est ça qui était sympa. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bah, exactement pareil. Franchement, on donnait pas un copec sur Finn Balor. Qui a lancé les hostilités à toute vitesse. Hein. C'est lui qui a essayé d'imposer le rythme au début, mais qui s'est fait contrer, je crois, sur une souplesse qui l'a dévasté après. Mais du coup, voilà, il s'était rendu crédible les semaines précédentes. Et là, il montre que sa place, il l'a pas volée en réalité. Donc j'ai bien aimé le fait que justement Lesnar est trop blessé pour porter le F5 dévastateur qui va gagner, que du coup il doit trouver une autre solution, donc la Kimura au final. Le fait que Balor refuse d'abandonner après avoir pris des souplesses à gogo, ça c'est bien, moi j'ai adoré. Donc bravo à Finn Balor qui a donné l'espoir qu'il pouvait gagner. Malheureusement, Lesnar l'emporte. Et puis, après une minute ou deux de récupération, on va placer un petit F5 de frustration.
J'ai pas mentionné ça. Oui.
Le petit F5 de frustration à la fin.
Ouais. Ça, c'était pas mal. Parce que justement, tu sens que vraiment, il l'a fait flipper. Quoi. Donc, c'est vraiment le F5 de frustration. Genre, tiens, allez, bouffe.
Ça, voilà. J'ai pas pu te le faire avant, mais maintenant, je te le fais, c'est gratuit.
Ouais. Elle est belle, hein, notre ceinture de plomb 2018.
Ouais, n'apparemment pas de ça. Ne parlons pas de ça. Vous savez ce que vous avez fait. Vous êtes tous responsables si vous avez voté pour Brock Lesnar.
J'assume. J'ai voté pour Brock Lesnar.
Et voilà.
Quelle décharge d'adrénaline quand même après les 25 minutes soporifiques qu'on a eu juste avant. La comparaison a été douloureuse pour Daniel Bryan et AJ Styles, malheureusement. Mais ah là, ça, pour la peine, je pense que là, ça a réveillé tout le monde, hein, ce match. J'ai beaucoup aimé effectivement la première phase offensive de Finn Balor, hein, qui était au taquet. Ça, c'est plutôt bien dans l'esprit, effectivement, parce que Finn Balor, enfin, si tu le suis un peu sur les réseaux sociaux, il a bien fait la promotion de ce match. Hein, donc, il était vraiment motivé à l'idée d'affronter la bête. Et une fois de plus, on a. C'est toujours la même histoire, hein, avec ces David là qui vont affronter Brock Lesnar, mais à chaque fois ils arrivent à trouver un petit angle, bah là en l'occurrence celui de la table des commentateurs, un angle différent pour.
Et puis Brock Lesnar est un tellement bon Goliath.
Ouais, un ouais. Énorme Goliath, le selling, c'est juste, enfin, c'est à chaque fois tu fais ah ouais c'est vrai c'est ça le selling que j'avais oublié, tu vois, enfin ouais. Genre. Vraiment, tu lis la souffrance sur son regard, parce que c'est assez dingue. Et j'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il y avait vraiment énormément d'alchimie entre les deux. Ça allait très très vite. C'était vraiment le petit moustique, là, Finn Balor. Et le final était cool, ça faisait plaisir là, de voir qu'il passe ce Kimura. C'était vraiment genre. Enfin, il veut l'écraser, toi. C'est genre, j'écrase le moustique, je le broie, en fait. Ce côté vraiment avec la, comme tu l'as décrit, cette frustration qu'il y avait, parce qu'il en avait juste ras-le-bol de ce gars-là. Et
ouais,
en plus,
c'est complètement ça.
Il avait très mal, en plus, toi, à mon avis. Enfin, il souffrait, quoi, parce qu'il s'était pris cet angle de table-là dans les intestins. Donc voilà. Ça a duré quoi, 5 minutes 5-10 minutes?
Ça a duré 8 minutes, mais. Enfin, d'après le compteur wiki.
Et ouais, super, vraiment un super match. Et une fois de plus, à un moment donné, tu te dis, tu t'imagines, ah, et s'il gagnait, quoi, Finn Balor. Et juste, ouais. Voilà, il y a cette partie du cerveau, t'as ta partie, genre, celle qui pronostique, qui fait les pronos, qui fait, mais non, évidemment, Brock Lesnar va gagner, mais t'as une autre partie du cerveau qui fait, pourquoi pas.
C'était tout ce qu'on leur demandait, hein, c'était d'arriver à faire le near-fall qui tue, et puis bah, après, de finir le match. Mais c'était ça, hein, de toute façon. Et c'est fou de voir en 8 minutes comment tu peux raconter 10 000 fois plus de choses et se faire se lever la foule sur un move qu'en 24 minutes, un peu léthargique. C'est dingue. Hein. Là, pour moi, c'était un exemple, vraiment un modèle de ce que devrait être une défense de titre de Lesnar.
Et puis la Kimura, ça faisait un bail qu'il ne l'avait pas sorti non plus.
Ouais.
Ça faisait, c'est pour ça, c'est important de le mentionner. Voilà, je pense que tu as la bonne analyse.
Ouais. Il a ressorti son arme ultime de finition, quoi. Il a fait tout ce qu'il pouvait autrement, mais comme il n'arrivait pas à placer le F5, il a sorti l'autre arme, et du coup, la Kimura finale, elle était impressionnante, ouais, c'est vrai.
Ouais, elle était impressionnante, tu voyais, il était complètement enroulé autour de Finn Balor, et il y a une telle différence de gabarit que tu te dis, il est foutu, tu vois, genre, il est coincé, quoi.
Ouais. Alors sinon, je vais revenir deux secondes sur ce que disait IRM, quand il disait que Finn Balor, sur les réseaux sociaux, il avait fait la promotion du match et tout. Il n'y avait pas que dans la promotion, parce que je vous avais parlé de la vidéo où vous expliquiez certaines tenues. Et ben en fait, Finn Balor, sa tenue, elle n'était pas anodine non plus. Les couleurs étaient choisies pour être celles du titre universel. Il était en rouge, en or et en noir un peu, mais c'était les couleurs du titre, pour montrer que le titre est important. Et qu'il le voulait bien.
D'accord.
Voilà, je vous enverrai le lien de la vidéo si vous voulez.
Sens de l'observation aigu.
Ah ouais. L'analyste.
Je vous enverrai le lien de la vidéo sur le Discord.
Avec plaisir. Dans la partie publique, comme ça nos
auditeurs. Oui, dans la partie publique, complètement. Complètement.
Excellente.
Alors, par contre, ça sera en anglais, vu que c'est les gens de What Culture Wrestling qui sont occupés.
D'accord.
Bon, ça devrait aller.
Allez, on va enchaîner sur le main event de la soirée, bien évidemment. Cette fois, pas de plaisanterie comme l'année dernière. On a gardé le Rumble masculin, le Rumble qui ne rigole pas, le Rumble qui envoie du steak. Voilà, vous m'avez compris. Donc le Rumble masculin clôturait l'émission et il s'ouvre. Alors voilà, pareil, hein, je ne vais pas revenir sur le play-by-play, je vous laisserai rebondir évidemment sur les moments qui vous ont plu. Mais grosso modo, bon, évidemment, ça a commencé avec Elias au milieu du ring, qui était donc le numéro 1 et qui nous a fait lui aussi une petite promo, hein, comme Lacey Evans. Hein, il avait son micro, et il a voulu nous jouer un petit morceau et il a été, comme à Monday Night Raw, interrompu par, et oui, Double J. Double J, Jeff Jarrett. Voilà, pour ceux qui regardaient la WWE il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Il y a eu quand même un gros hiatus et il s'est évertué tout le reste de sa carrière à plutôt monter ou travailler dans des fédérations concurrentes. mais Jeff Jarrett, récemment Hall of Famer, d'ailleurs je ne sais plus de quelle cuvée, était là.
C'était l'année dernière.
Dans ses habits de lumière, ses habits vraiment traditionnels de l'époque, c'était assez drôle. Du coup, duo de musiciens dans le ring pour ouvrir ce Rumble, Jeff Jarrett numéro 2. Jeff Jarrett qui était connu pour être toujours soit avec son roadie et sa guitare à l'écraser sur qui voulait bien, qui s'opposait à lui. Donc voilà, petit duo, c'était sympa. Elias qui joue avec le public, il dit écoute, si t'es là, on va en profiter, on va offrir un petit concert. Jeff Jarrett était bien content aussi, alors il s'oblige. Turn d'occasion, turn de circonstance ou turn long terme, on ne sait pas. Mais en tout cas, Elias, finalement, c'était un cirque puisqu'il écrase, il explose sa guitare dans le dos de Jeff Jarrett et l'élimine d'ailleurs, tout simplement. Donc Jeff Jarrett sera venu amuser la galerie un petit peu pendant une minute. Mais voilà, ça c'est le genre de petit caméo qui moi en tout cas m'ont bien fait marrer, qui m'ont lancé avec le sourire dans ce Rumble. Alors ensuite, en vrac, on aura eu quelques surprises sympathiques de NXT. Et pas des moindres, plutôt le haut du panier qui est venu nous rendre visite, puisque c'était Johnny Gargano qui est rentré en numéro 6 dans ce Rumble et qui aura duré assez longtemps. On a eu également Pete Dunne qui est rentré en 18, Aleister Black en numéro 21 qui lui aura fait un passage un petit peu plus court. On aura eu quelques retours d'une certaine manière, puisqu'on a eu Shelton Benjamin qui a passé pas mal de temps dans la salle de sport apparemment, qui était aussi là. Qu'est-ce qu'on a eu en vrac? Bon, on a eu Titus O'Neil qui évidemment en milieu de Rumble qui a joué avec son slide. Kurt Hawkins qui était là, qui s'est caché un petit peu sous le ring comme Zelina Vega une heure avant, mais qui au final s'est fait sortir assez facilement. Qu'est-ce qu'on a eu? Bon, après sinon le reste c'était somme toute plutôt du roster actif et très actif. Il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de grosses légendes. On a eu Kurt Angle aussi en début de Rumble qui est venu faire un petit passage assez court. Et finalement, comme souvent dans les Rumbles, ça s'est activé en fin de Rumble. Et alors que le ring est rempli par du très très costaud, en fin d'émission, là on a du Rey Mysterio, du Bobby Lashley, du Braun Strowman, du Baron Corbin, du Seth Rollins, du Dean Ambrose, du Dolph Ziggler qui est arrivé en numéro 28, lui aussi tordant le cou aux récentes rumeurs, puisqu'il s'est amusé à worker un petit peu tout le monde en interview récemment. Il était de la partie. Et donc, on arrive au numéro 30 qui devait être R-Truth, qui d'ailleurs était R-Truth, qui est sorti tout rappeur qu'il est à chanter son thème d'entrée. Et alors là, c'est le what the fuck, mais c'est le bon what the fuck. Encore une fois, on était complètement subjugués par la scène qui se déroulait sous nos yeux. Nia Jax qui sort de l'entrée des catcheurs et qui explose R-Truth contre la barricade. Mais alors, il défonce. Donc là, je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nia Jax qui s'autoproclame entrante au Rumble et qui rentre dans le Rumble. Et alors là, incroyable, elle commence à tabasser tous ceux qui s'opposent à elle. Et c'est vrai qu'elle a quand même le physique de l'emploi, là, pour le coup. Donc là, c'est incroyable. Elle rentre dans tout le monde. Jusqu'à ce que la foudre Nia Jax se calme un petit peu et là je pense qu'elle a vécu son rêve, hein. Je pense que c'était assez sympa pour elle. En kayfabe beaucoup moins, puisqu'elle se bouffe successivement des 619, des superkicks de Ziggler, un RKO de Randy Orton absolument incroyable, superbe. D'ailleurs il y a des photos qui tournent sur internet de ce RKO magnifique. Et donc elle finit par se faire éliminer fort logiquement, mais une scène assez surréaliste qui continue de repousser les limites du combat non genré, hein. Maintenant voilà, on avait eu à WrestleMania déjà un premier goût avec Ronda Rousey et Triple H. Donc voilà une scène assez dingue qui a complètement électrisé cette fin de Rumble. Et au final, le calme revient, pas complètement, puisque c'est vrai qu'on avance carrément dans le Final Four. Final Four composé, si je ne dis pas de bêtises, de Andrade, qui était toujours là, Dolph Ziggler, Seth Rollins et Braun Strowman. Et donc Andrade, c'était sympa de le voir aussi loin dans ce Rumble. Bon, par contre, il est éliminé assez rapidement dans ce Final Four par Braun Strowman. Strowman qui dégage
Dolph Ziggler.
Il se paye les deux. Et on a donc un final un petit peu sur le même modèle, on va dire, que Charlotte Becky, mais pas exact. C'est plus par les gabarits là cette fois. Braun Strowman qui remonte dans le ring malgré la tentative en filou de Seth Rollins de l'éliminer tout de suite dans la foulée des éliminations des deux autres. Et donc là, un combat s'engage entre les deux. Seth Rollins, c'est très déséquilibré. On craint, il y a des frayeurs à chaque fois. Là, je trouve qu'ils ont plutôt bien joué autour des cordes. À chaque fois, quand il y en a un qui passe par-dessus la troisième corde, il y a quelques des cris un peu là dans le public. Donc c'est assez sympa. Et puis un petit peu le même finish. Les deux se retrouvent face caméra sur le tablier du ring. À toi, à moi. Et c'est finalement Seth Rollins dans la folie générale, comme Becky Lynch, qui finit par placer son stomp sur le tablier du ring. Assez sympa pour mettre définitivement KO le monstre. Victoire en un peu moins d'une heure d'un Seth Rollins sous les vivas de la foule. Bon, là, on l'avait un petit peu tous pronostiqué, ce Seth Rollins, mais il y a des moments où ça fait juste plaisir de faire gagner le super favori, quoi.
Exactement. Ouais. Effectivement, les mecs maîtrisent un petit peu mieux le sujet. Ça se ressentait notamment au niveau du rythme, des éliminations. Voilà, tu n'étais pas là. Attends, mais il y en a un qui vient de se faire éliminer alors qu'il y en a un qui vient d'entrer. Concernant, on va dire, un petit peu le casting global de ces 30 entrants, il y a pas eu de grosses fautes de goût, on va dire. Une fois de plus, c'était pas la soirée des anciens, des Hall of Famers, parce qu'à part Jeff Jarrett et Kurt Angle, comme tu as cité, ça a été très vite expédié. Après, place à la jeunesse. Je sais pas si tu trouveras redire à ce niveau-là, Giscal.
Bon, la jeunesse, je sais pas. En tout cas, c'était place au roster actif. Un peu plus solide quand même.
Oui, sûrement plus de star power, j'imagine, à ton goût.
Oui.
Après, là où j'étais un petit peu surpris, c'est les mecs de NXT. J'étais assez surpris sur le choix qui a été fait de faire venir Aleister Black, Gargano, Pete Dunne un petit peu moins, mais surtout Aleister Black, j'étais assez étonné. Gargano également.
Très surpris d'Aleister Black.
Ouais, quand on sait qu'ils ont fait monter des mecs de NXT il n'y a pas très longtemps. Visiblement, les mecs ont toujours, non seulement ils n'ont toujours pas choisi le show dans lequel ils sont, mais ils ne sont toujours pas décidés s'ils allaient participer au pay-per-view. Contrairement aux filles qui étaient là, parce qu'il n'y a aucune trace de EC3 ou de Heavy Machinery.
C'est vrai.
C'est un peu dommage. J'aurais bien vu au moins un des deux d'Heavy Machinery, parce que voilà, c'est comme des gabarits assez hors normes qui se prêtent plutôt bien au Rumble. Donc je trouve que là on avait à la place de peut-être un Noé Rosé qui était totalement dispensable ou même osons le dire tu gardais un seul membre des New Day peut-être quoi parce que
oui
ils étaient enfin d'ailleurs ça me fait penser finalement un reproche qu'on peut faire à ce match des mecs c'est que il y avait beaucoup de spots qui avait déjà été fait par les filles. On s'est vraiment retrouvé avec le sauvetage en deux tentes. Il y a deux fois un sauvetage à l'extérieur. Il y a eu le coup de « vas-y que je me glisse sous le ring ». C'est des spots qu'on avait un petit peu déjà vus. Donc, t'as un peu l'impression que les mecs ne se parlent pas en salle de booking, là, d'écriture. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Après, il y a eu aussi quelques sorties un peu précipitées, des mecs comme effectivement Drew McIntyre ou Samoa Joe qui n'atteignent pas le Final Four, peut-être un petit peu dommage.
Samoa
Joe, est toujours un peu court. Hein.
Sorti en milieu de combat, Samoa Joe.
Il nous promet toujours Monts et Merveilles, et puis il se fait toujours sortir, que ce soit Survivor Series et McIntyre. D'ailleurs, c'était pas un peu pareil. C'était ça, juste Samoa Joe, pardon. Survivor Series ou Rumble. Il est toujours prêt, il est chaud, et puis voilà, il va jamais jusqu'au bout. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais surtout, la grosse surprise, c'est Nia Jax.
Ah bah
là, franchement, je sais pas ce que... Enfin, messieurs, mais moi, j'en pouvais plus. C'était génial. Ça ne correspond à rien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui a bien pu lui prendre par... Enfin, qu'est-ce qui est passé par sa tête? Enfin, qu'est-ce qui l'a motivé? Ça, je suis assez curieux. Qu'est-ce qui a motivé Nia Jax à venir se frotter?
C'est pas mal qu'elle s'explique là-dessus. J'attends
les explications. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Je dis, bah écoute, voilà, j'avais juste envie de détruire des gars, quoi.
Comment va réagir R-Truth aussi?
Une feud. Est-ce qu'une feud va être lancée entre Nia Jax et R-Truth? Je ne sais pas. D'ailleurs, pas encore vu Monday Night Raw. Je ne sais pas. Je trouverais ça plutôt intéressant. Essayer de ne pas être dans le même roster, mais ça pourrait être très intéressant. Mais voilà, cette fin de Nia Jax, ça a été vraiment petit éclair comme ça de folie là à la fin pour un petit peu nous remercier, je sais pas, d'avoir regardé passer 7 heures devant le devant le network.
Oh là là.
On nous remercie en nous balançant un truc totalement improbable, Nia Jax qui vient, et surtout cet enchaînement là. Autant les deux, Dolph Ziggler, son super kick, et Rey Mysterio sur 619, ils étaient un peu hésitants, ou c'était pas voulu, toi, le super kick de Dolph Ziggler, tu peux dire, ouais, il voulait le mettre sur Rey Mysterio et tout. Mais Randy Orton s'est délecté de pouvoir placer un RKO sur une femme. On sent que voilà.
Super. Il avait été contré une première fois, le RKO.
Oui. Donc ça, c'était fantastique, quoi. Donc vraiment, on termine sur une petite folie, et puis la confirmation, la consécration de. Pour moi, ça y est, la WWE, j'espère, parce que pour moi, tout va se... Enfin voilà, on va voir jusqu'où ils vont à WrestleMania, mais évidemment que ça doit être Seth Rollins. Évidemment que Seth Rollins doit aller défier Brock Lesnar Brock Lesnar à WrestleMania, évidemment. Donc voilà, le choix du champion est le bon. Donc c'était un excellent Rumble, j'ai trouvé. Ouais. Même si ça manquait aussi autre chose, ça a manqué de retour. Des mecs blessés. Des mecs, tout ça.
Moi, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. C'est peut-être que tu pouvais virer du Jinder Mahal, du Nowhere Jose ou autre chose. Et puis peut-être quelques surprises. Ah oui, alors après, oui, les retours blessés, ouais, tu parles pas de la même chose. C'est vrai que j'aurais aimé quelques petits caméos supplémentaires, mais bon. Peut-être pas Bad Karma, je sais pas.
Kiri Suka,
il a préféré plus de petits jeunes de NXT
du Performance Center.
Surtout quand tu vois ceux qu'ils ont choisi de faire monter, qui sortaient chacun d'un match monumental la veille, que ce soit Gargano ou Black, c'était des matchs de dingue. Ça c'était un peu la bonne surprise de ce côté-là. Moi j'étais content qu'il n'y ait pas tant d'anciens qui reviennent faire un caméo. C'est pas utile.
Oui, on sait.
le roster est suffisamment grand pour ne pas avoir besoin d'eux, quoi.
Non, chez les mecs, je suis d'accord. C'est tellement costaud que ouais.
Après, il y a quand même des éliminations. J'étais un peu surpris parce que j'ai trouvé ultra rapide par rapport au statut du personnage. Dean Ambrose, Bobby Lashley, qui ont été éliminés très vite tous les deux.
Bobby Lashley qui a duré 13 secondes sur le ring. Ouais.
Voilà, je crois que c'est le moins longtemps sur le ring du match.
Ça, à la limite, c'est un...
Il y a eu quelques gags, Xavier Woods.
Il y a eu Rosset, pardon, qui lui...
Rosset, 2 secondes, Titus O'Neil, 5 secondes, mais il fait partie du lot, quand même, Bobby.
Voilà, c'est... Mais donc, voilà, le match en lui-même, je vais pas mentir, j'ai préféré celui des filles, peut-être aussi que c'est la fatigue qui a fini par jouer sur moi, je voulais que ça se termine, mais le vainqueur, c'est un beau vainqueur, hein, l'air de rien, on va pas se plaindre non plus que ce soit Seth Rollins, pour une fois qu'on n'a pas une redite de quelqu'un qui gagne, alors qu'il l'avait déjà gagné, donc là on va avoir probablement Rollins-Lesnar. Je vois pas Rollins aller chercher Daniel Bryan ou quelqu'un d'autre. On va donc avoir le match qu'on attendait. Et puis le passage d'Nia Jax, écoute, c'était assez marrant. Et alors j'ai vérifié, le père Orton, c'est pas la première fois qu'il fait un RKO sur une femme.
Ah bah non.
Puisqu'il y a 10 ans, il en avait fait un à Stephanie McMahon, pendant sa feud avec Triple H à l'époque.
Bien sûr, il était tout désigné pour ce spot. Hein.
Ouais.
Nia Jax qui rejoint une sacrée liste.
Celle qui a éliminé Mustapha Ali en plus. Mustapha Ali qui a fait une grosse prestation et du coup c'était un bon choix.
Nia Jax.
Je trouvais que c'était un bon choix.
C'était
quoi.
Sympa. Ouais, c'est bien pour qu'elle ait quand même une élimination un peu impactante.
Ouais.
Mais d'ailleurs Mustapha Ali, une des belles sensations de ce Rumble qui a duré 30 minutes. C'est le second plus long. Dans le Rumble, juste derrière Seth Rollins, qui était l'Iron Man de loin avec presque 3/4 d'heure, il a duré 30 minutes. Il a notamment éliminé Nakamura et Samoa Joe. Il a marqué un peu ce Rumble de son empreinte. Moi, je trouvais que c'était un peu un de mes MVP du match.
Mmh. Ah bah là, carrément. Du coup, Mustapha peut demander un match face à Nakamura pour le titre, du coup, en disant je l'ai battu, je mérite un match.
Oui. Pourquoi pas, en effet.
L'entrée de Nakamura qui du coup aurait été aussi une des entrées qui était un peu dispensable parce que
je suis d'accord aussi.
Tu fais entrer le mec qui a gagné, qui est épuisé. À la limite, tu dis Rousseff, toi, tu t'attends plus à Rousseff.
Bon, après,
Rousseff
on peut
qui pas. C'est pas cette soirée quoi.
Vu le match de Nakamura, on peut pas dire qu'il était vraiment épuisé non plus. Le match avait pas duré longtemps.
Le jour où il sera épuisé après un de ces matchs, lui, de toute façon.
Il garde un peu d'énergie pour aller surfer sur les belles vagues du désert d'Arizona.
Des vagues dans le désert pour surfer.
Nakamura, s'il veut trouver une vague, il la trouve.
Sinon, quelques stats sur ce Rumble. Mais donc, on l'a dit, Seth Rollins, Iron Man, 43 minutes, Mustapha Ali, 30 minutes. Et après, dans l'ensemble, il n'y a personne qui a vraiment. Qui a vraiment tiré son épingle, parce que tout le reste, après, c'est 20 minutes ou moins. Donc, on a notamment Samoa Joe, Andrade, McIntyre, qui ont duré un peu 20 minutes ou un petit peu plus. Mais le reste, c'était... Il n'y a pas eu de grosse domination dans ce Rumble, à part Seth Rollins. Et les éliminations, c'est Monday Night Raw qui l'emporte, parce que Braun Strowman, malgré le fait qu'il soit arrivé très tard dans le Rumble, on a quand même calé 5, c'est lui le meilleur. Drew McIntyre en aura fait 4, quand même. Lui, il aura eu un passage assez efficace, quand même. Il aura sorti pas mal de monde. Seth Rollins en aura fait 3, comme Samoa Joe. Et puis après, ça descend. Donc quand même, les éliminations ont été quand même faites par les gros noms dans ce Rumble. Mais bon, voilà.
Il y a aussi un passage dans le Rumble que j'ai bien aimé. C'est quand tu as eu une petite confrontation entre Shelton Benjamin et Apollo Crews.
Ah oui.
Qui ont un peu le même profil. C'est des mecs ultra athlétiques, mais... qui sont pas ultra charismatiques au micro. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir la première version du projet et la deuxième version.
C'est comme le mème sur Internet où t'as les deux Spider-Man là, qui se pointent du doigt comme ça.
C'est ça.
J'avoue.
Bon, on a bouclé, ça y est. On a tout revu. Alors, c'est l'heure, c'est l'heure du mot de la fin. C'est l'heure du mot de la fin. Alors, écoute, Bad Karma, je te laisse continuer sur ta lancée. Ton top, ton flop et ta note pour ce Rumble gargantuesque.
Alors, mon flop, ça va être le match Ronda Rousey-Sasha Banks. Pour les raisons que j'ai évoquées, c'était un peu trop brouillon pour moi. C'était pas assez abouti. Je veux récompenser quand même l'effort d'avoir essayé d'apporter de la nouveauté, mais il aurait peut-être fallu que ce soit mieux maîtrisé. Mon top, je vais pas te faire une grosse surprise en disant Becky Lynch. Même si elle a perdu son premier match, elle revient dans le Rumble, elle gagne le Rumble, voilà. Je suis très content, ma soirée était très bien pour ça. Et la note, je vais mettre un 4. Parce qu'il y a eu deux passages où j'ai... Le passage AJ Styles, Bryan, j'ai complètement décroché. Et puis Rousey, Banks, j'ai eu un peu de mal. Sinon, pour mon pote Artegor, je place son petit top. Lui, c'est le poteau dans lequel Ronda Rousey avait tapé qui s'est alors il disait je comprends pas ce poteau mais il mérite sa place parce que il fonctionne plus, bref c'était un peu le bordel dessus
très attentif aux détails cet Artegor.
Ceci dit, ça nous avait marqué aussi, je me souviens.
Oui, c'est vrai.
Ouais, alors moi, mon flop, je le donne au match AJ Styles Daniel Bryan. Trop long, trop vide, trop inintéressant. Voilà, encore une fois, plus une copie manquée pour des main eventers. Donc pour moi, là, c'est zéro. Mon top, je ne peux pas ne pas le donner à Becky Lynch. C'était sa soirée. Voilà, j'applaudis le fait que la WWE comme ça assume d'avoir une vraie superstar quoi et d'y aller à fond et en plus avec je trouve beaucoup d'intelligence parce qu'au passage elle en a profité pour mettre ses adversaires over comme Asuka. Donc voilà, en fait tout ce qui se passe autour de Becky Lynch bénéficie à tout le monde. Ça a bénéficié à Charlotte qui l'a remplacée au pied levé pour son match à Londres aussi. Ça a bénéficié à Nia Jax qui a obtenu une hit de dingue et il y a eu le face-à-face hein, entre les deux pendant le Rumble, ouais. The Facebreaker. Donc voilà, elle a obtenu une hit. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu étrange quand elle est arrivée dans le Rumble parce que ça a popé pas mal. Son alignement est un peu étrange, mais peu importe. Mais voilà, ça bénéficie à tout le monde. Et ce soir, ça a bénéficié à Asuka, puisque voilà, elle a fait une grosse, grosse victoire pour Asuka. Donc, le Becky Lynch, vraiment, c'est là où tu vois le côté vraiment vrai superstar. C'est qu'elle entraîne comme ça, il y a une vraie vague de fond. Elle entraîne avec elle. Mmh. Tout ce qu'elle touche se bonifie tout d'un coup. Et voilà, donc il y a vraiment...
Elle se pose vraiment en top star qui peut mener la division. Quoi.
C'est ça, exactement. Voilà, c'est mon top de la soirée. En note, je mets un 3,5. Parce que c'était quand même drôlement long et que... Enfin voilà, c'était un très bon pay-per-view. Probablement, ça peut se tenir, je pense, parmi les meilleurs Rumble de ces dernières années. Parce que c'était très... droite au but, on va dire, très compact, avec vraiment des en termes de roster, vraiment un bel aperçu d'aujourd'hui, de la qualité de roster que peut proposer la WWE à travers toutes ces divisions, ces sous-divisions, avec les mecs de NXT UK, 205, enfin, si on n'a pas trop vu de 205, mais enfin, voilà. Il y a vraiment ils ont un sacré roster et tu t'en rends compte quand tu regardes un Rumble, même si parfois il faut aller chercher un petit peu loin du côté des filles. Mais bon, voilà, il y a 3 ans, il n'y avait pas de Rumble féminin. Donc voilà, aujourd'hui, il y en a un. Donc, ouais. Donc voilà, 3,5 pour moi.
Ah bah c'est moi qui ai la meilleure note alors, parce que moi je vais mettre un 4 des familles à ce Rumble.
J'ai mis 4 aussi.
Ah bah Kerma a mis 4 aussi.
Ah pardon, j'avais
pas. Eh bah je mets 4,25.
Ah bah puisque c'est comme ça, je mets plus alors. Non, je vais mettre 4 aussi, excuse-moi, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que t'avais mis 3,5 aussi.
C'est peut-être parce que dans le canal privé, j'avais mis 3,5 au début. Mais en fait, j'ai décidé de changer et de mettre 4.
Yes, ça fait plaisir. Et ben moi aussi, je mets 4. J'ai adoré ce pay-per-view. J'ai trouvé que malgré la longueur, il était super bien construit. Et je pense que j'aurais, que ce soit en termes de résultats ou d'ordre des matchs, j'aurais rien changé. Peut-être inversé les deux matchs pour les titres masculins entre les deux Rumble pour donner un petit peu plus de peps après le Rumble féminin. Mais voilà, un beau pay-per-view, ça, c'est une belle soirée comme on en a que trop peu, donc c'était très cool. Mon flop, j'aurais pu mettre le Rumble féminin, mais je vais m'attarder tout particulièrement sur Tamina, que vous pouvez, on avait oublié d'en parler pendant le Rumble féminin, mais qui est pathétique jusqu'au bout. Je suis pas du genre à m'acharner sur des catcheurs, mais de voir une telle nullité évoluer comme ça, c'est incroyable. Elle avait un truc à faire dans le Rumble et elle l'a foiré sur le splash de son père. Là, elle a fait une vieille crotte, elle s'est écrasée. Là, elle a même pas eu le temps de lever les doigts. Là, enfin, c'était n'importe quoi. Donc c'est mon flop de la soirée, c'est la seule chose à coûter. Et puis mon top. Ça aurait été drôle dans la même soirée de filer le flop à Tamina et le top à Nia Jax, mais mon top, je vais le garder pour Shane et son Shooting Star Press absolument.
Ça, c'est sûr.
Si, non.
49 ans, le mec. Ouais, je veux dire, c'est... À 49 ans, si je pouvais faire ça, ça serait génial.
Ouais, alors, même à 30 ans. Même à 20 ans.
Ouais, c'est sûr.
Mais en l'occurrence, tu as raison de souligner qu'il a quand même 49 balais. et que le mec venait de s'envoyer encore des descentes du coude de la troisième corde, des coast-to-coast ratés, des swings dans tous les sens, et le mec va sortir un shooting star press pour décrocher le titre. C'est clairement mon top de la soirée. et puis bah, d'ailleurs, on en profite pour faire un petit coucou à Raphaël qui nous avait laissé son mot de la fin et qui en fait son top c'était tout. Il met 5 sur 5, il a passé une soirée de dingue et son seul flop c'était que Rousseff finalement ait perdu son titre. Comme parce que sachez si vous ne l'avez pas compris depuis que Raphaël est un grand fan de la brute bulgare. Donc bah voilà, écoute, on a bouclé cette review qui j'espère vous a plu et qui quand même était moins longue hein, que le gros morceau qu'on a eu au Rumble, mais il y avait plein de choses à dire. Vous pouvez nous suivre comme toujours sur les réseaux sociaux, sur Facebook @catchupcdc, tout comme sur Twitter d'ailleurs @catchupcdc aussi. Vous pourrez retrouver cette vidéo qui n'en est pas une, mais en tout cas une vidéo quand même sur YouTube, sur notre chaîne CatchUpCDC et l'audio sur PodCloud et Spotify.
C'est et iTunes.
Et iTunes. Et iTunes, bien sûr. Et iTunes. Donc voilà, je remercie mes deux comparses d'infortune pour avoir revu ce gros morceau à IRM. Merci beaucoup.
Merci à toi. N'hésitez pas aussi à venir checker le Discord. Hein.
Ah oui,
venir,
tu as raison.
Venir dans la
Discord.
Description. Oh là là, je suis pour venir nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode incroyable.
Ouais. Venez discuter avec nous et la communauté Catch-Up qui grandit sur ce Discord, venez discuter, on est disponible à toute heure de la journée pour parler de catch et pas que de la WWE. Et puis bah merci beaucoup Bad Karma.
Mais de rien, de rien. Moi je vais juste rajouter, cette semaine on a encore les reviews Raw et SmackDown comme d'habitude.
Yes.
Donc restez connectés, il y a encore plein de contenu dans la semaine.
Ouais. Et tu t'es occupé d'ailleurs de tes covers aussi, il me semble.
Ouais.
Oui.
Donc il va y avoir ça. Ce soir, abonnez-vous pour ne pas louper. Mais ce soir, vous aurez certainement un épisode spécial avec Hank qui va vous partager aussi ses impressions sur ce Rumble.
Ah non, Giscal, c'était hier du coup.
Ah oui, c'était hier. Oh là là, je dévoile le jet lag. Mais en tout cas, ce sera hier. Alors vous ne saurez pas. Mais vous l'aurez écouté en tout cas entre temps. Et puis en effet, ne manquez pas les reviews de SmackDown, d'Euro qui arrivent. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine pleine de catch. Allez, ciao ciao tout le monde.
Ciao. Allez. Ciao.
Il y a peut-être encore une pièce derrière moi à faire, mais bon, c'est pas grave, on va commencer.
Le mec, il sait même pas s'il y a des pièces, quelles sont les pièces chez lui. Quoi. Il y a peut-être encore une pièce derrière moi, mais
je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas ce qu'elle a pas fait.
Je sais pas, il y a une petite porte, je l'ai jamais ouverte.